Bonjour, bonne journée, bonne fin d'après-midi et surtout bonsoir. C'est Starlette qui vous parle. Nous sommes le samedi 16 décembre 2017 et nous voilà aujourd'hui réunis pour le 38e volet de l'Entrepode. Et tu sais quoi ? Oui, toi qui viens de sélectionner un épisode au hasard d'un podcast au hasard pour attaquer ta journée, eh bien tu es un vénard car tu viens pile poil de tomber sur l'épisode de Noël, un épisode généralement haut en couleur et en grand n'importe quoi. En plus, quelle chance tu fais, c'est un épisode sans Marius. Mais méfie-toi, poditeur, si tu habites Bayeux et que tu croises une personne à la laine douteuse, genre bourguignonne, bagousse dorée vissée au doigt et savate aux pieds presque neuve estampillée Mercedes, fuis, c'est lui. Il va essayer de te refourguer un lutin qui clignote pour la modique somme de 159 € en te faisant croire que, je cite, c'est une affaire en or, cousin. Monsieur nous a fait faux bond, eh bien tant pis pour lui. Autour de la table aujourd'hui, enfin j'aurais dû dire sous la table aujourd'hui, en effet nous n'avons pas encore amassé assez d'argent via le Tipeee pour sa chaise haute sur mesure. On a bien investi dans quelques coussins, mais il y a toujours un moment dans l'épisode où quelqu'un les chope pour faire taire Didouille, c'est une scène sans fin. J'ai nommé Arnaud.
Bonjour, je crois qu'on est resté dans la thématique habituelle.
Il profite de cette période pour refaire son stock de vannes pour l'année et achète tous les calendriers qu'il trouve. 365 jours pour faire marrer ses collègues au boulot, 365 blagues de Toto, 365 caca bien moulé en se marrant, j'ai nommé Ludo.
À ce point, j'en ai une bonne.
Il a un gros micro et il aime communiquer. Sa reconversion dans la fabrique de boudins antillais nous a mis la puce à l'oreille. Le patron a bien l'intention de mettre à profit ses connaissances dans le milieu du béton. J'ai d'ailleurs surpris récemment une conversation téléphonique entre lui et Richard Allan, un ancien invité de l'émission. J'ai pu entendre leur brainstorming au sujet du nom de la production. Nicora, Nicora pas. Salut Nico.
Salut.
Il n'aime pas Noël car il reçoit toujours le même cadeau. Il a beau commander des livres, des cordes de guitare, des crayons, des châssis, un peigne. Non, le Père Noël lui apporte toujours une année supplémentaire. Allez. Il commence d'ailleurs à avoir une collection assez impressionnante. J'ai nommé Christophe.
Bonjour. Pour une fois, le thème est intéressant.
Les cœurs de l'armée rouge ont refusé sa candidature. Elle avait le volume requis, mais elle ne pouvait pas s'empêcher de coupler sa prestation vocale à une prestation physique et enchaîner les figures de body combat. Du coup, elle a été recueillie par la chorale de la Croix-Rouge. Moins de public, moins de tentation, elle se tient à peu près et elle attendrit le bigot. J'ai nommé Didouille. Salut. Il a passé des heures dans sa chambre à parfaire son « Bonjour et bienvenue au juste prix ». Sa chanson « Fritas les ananas » fut un échec commercial. Non, il ne sera jamais Philippe Risoli et ça, il a bien du mal à s'en remettre. Nous l'avons récupéré au plus bas de sa forme et lui avons donné sa chance parmi nous. C'est pas un chef-d'œuvre, mais on y tient. J'ai nommé Freddy.
Bonjour et bienvenue à l'Entrepôt.
Quant à moi, il me reste à vous souhaiter un joyeux épisode.
Ouais, merci Starlette. Oh.
On peut virer Marius, non?
Ça y est. Alors on peut virer Marius maintenant. Ça y est.
Il avait déjà peu d'utilité dans l'émission, il en a plus du tout.
Dis donc, hein, bah, effectivement, tu l'as remplacé au pied levé, mais de
ça
façon.
Ce matin, je me suis dit, vas-y, j'y vais.
Allez, complique, t'as aucune chance, vas-y, fonce. Tu l'as fait de façon impériale.
On dit au pied levé ou la jambe en l'air?
Et donc voilà, comme tu l'as dit, notre.
C'est un texte.
C'est notre traditionnel épisode de Noël, et puis ça devient aussi une tradition, on le délocalise, puisque c'est Arnaud qui nous accueille. Donc, bah, bien sûr, il y aura de la bouffe, il y a des petites choses à grignoter, à boire, etc. Tranquillou.
Ah bon, c'est
et
où
puis, et puis, bah, on essaye d'éviter d'inclure des invités lors de ces épisodes-là, parce que c'est un petit peu problématique pour eux.
Je m'étonne.
Mais en tout cas, on a plein de rubriques à vous présenter. Hein. Je crois que tout le monde a quelque chose. Et
qu'est-ce qu'il y a? Non, pas Didouille.
Ah, voilà. Tiens, surprenant.
J'en ai fait une la dernière.
C'est bien, Didouille, c'est bien.
Et aussi.
Tu peux parler dans le micro aussi.
On l'entend. Hein.
Pas non, mais on l'entend quand même.
Et donc, bah, on va avoir nos différentes rubriques. Freddy va avoir une rubrique un petit peu particulière cette fois-ci.
Ah, oui.
Parce qu'on va jouer. Quoi.
J'aime bien qu'on joue.
Ouais. Philippe a résolu.
C'est exactement ça. Et puis, bah, on va garder quand même notre.
Donc, tout le monde est malade.
J'ai entendu un barrissement quelque part.
Dans le micro, Didouille, dans le micro.
Barry White.
C'est Barry Yellow vu la couleur dans le mouchoir.
Et donc, on terminera avec nos 60 secondes, nos coups de cœur en fin d'émission. Et puis, bon, on va commencer directement avec une rubrique. Allez, Christophe, on va commencer avec toi.
Déjà d'entrée, moi, si vous voulez.
Comme tu veux, non? C'est une rubrique qui fonctionne bien pour commencer.
Si tu veux, oui.
Mais tu chauffes tout le monde. Donc,
je
te sens prêt. Allez, à toi, c'est parti.
Et c'est ça. Il est
c'est tout, c'est intéressant. Et c'est ça, je trouve ça important.
Tu vas pas lire les deux pages, si
juste les trois premières lignes de chaque page. Parce qu'en fait, je continue dans la même lignée, c'est-à-dire que... Voilà,
toute bâtarde, non. C'est...
non. J'aime le... Non.
Pas tout à fait, mais en tout cas, un bouquin pas drôle.
Et franchement, après, à chaque fois, tu nous dis, mais pourquoi vous dites ça de moi, tout ça, franchement, tu t'en bats.
Justement, il a décidé...
Dit-il en se portant la poire. Mais... Il a raison, il creuse son sillon.
Justement, ouais. C'est
bon, enfin, Nico, il a quand même vendu du rêve aux auditeurs en disant qu'en général, l'épisode de Noël, on se marrait.
Voilà. On va se marrer peut-être.
Mais là, vous allez vous marrer, même si c'est un livre pas drôle, mais c'est un livre...
Drôle.
Drôle. Ok, vas-y, c'est là que tu nous as... Ouais.
Tu nous as appâté.
Voilà, donc en tout cas, c'est un livre, je l'ai choisi parce qu'il va à l'encontre de l'esprit de Noël. Il est un peu, il est un peu provocateur, évidemment, et il va un peu aussi, surtout à l'opposé des valeurs que véhicule cet esprit de Noël, en fait. En tout cas, pour bien des gens. Donc, comment, en fait ? Bah, tout simplement, je vais présenter le livre. Parce que,
oui, parce que tu n'as pas dit son nom, je crois.
Ni le nom de l'auteur, ni le titre. Donc, c'est Emmanuel Venet. Pas de jeu de mots ? Emmanuel Venet.
Pas notre genre.
Tu dois te tromper d'émission.
Non, parce que je me suis dit, après Donatart, je me suis dit, bon, Emmanuel Venet, peut-être que...
Non, mais là, il y a un
truc. Ça change bien, on va trouver. Non, hein,
moi, je connaissais c'est Emmanuel Partey, mais pas Emmanuel Venet, par contre. Mais... Non,
mais attends, je pense que tu l'as cherché,
fallait pas.
Fallait chercher plus longtemps.
Précisons aux auditeurs qui ne connaissent pas que ça, c'est Ludo, par exemple.
Donc, Emmanuel Venet, donc, le titre de son, du roman que j'ai choisi, ça s'appelle « Marcher droit, tourner en rond ». Des fois, ça pourrait ressembler étrangement à l'entrepode. Mais c'était pas du tout le propos. Hein. C'est... Alors, donc, Emmanuel Venet, donc, dans son roman, dénonce un petit
mais
peu...
Mais Venet, c'est une oxymore, non ?
Quoi ?
Pas une oxymore, Venet ?
Une oxymore ?
Oxymore, Venet ?
Oxymore Venet, très bon.
Oh là là,
bravo. Oh, allez, bonne celle-là. Ah, ouais.
Ah là, tu m'as cuit, je suis oxy, je suis mort.
Donc je disais donc.
Bon, il est qu'à la deuxième ligne.
Mais il a voulu, il a eu.
Même pas.
Fallait pas demander.
Donc notre auteur dénonce en fait le ridicule et la duplicité de la société à travers les yeux d'un quadragénaire qui souffre du syndrome d'Asperger. Le fameux trouble autistique que chacun connaît. Enfin, plus
pourquoi
ou moins.
Tu regardes Nico quoi.
Non, lui, il est attendu sans d'Asperger, lui.
Depuis le film Redman, tout le monde connaît ce syndrome. Et donc, Emmanuel Venet est psychiatre de profession, donc il connaît plutôt pas mal son sujet. Et au travers du roman, en fait, il descend en flèche la société dans les rapports humains fondés sur sur la pire des hypocrisies, sur la haine. Sur l'indifférence, voilà l'esprit de Noël. c'est piquant, c'est percutant, c'est vif, c'est intelligent et c'est surtout très très drôle.
Donc pour l'instant tu le vends pas tout à fait.
Mais en fait vous allez voir. Donc le narrateur il a 45 ans donc il a atteint du syndrome d'Asperger et donc ce syndrome a la spécificité donc pour l'individu de ne pas pouvoir s'épanouir en société et surtout de dissimuler ses sentiments. C'est-à-dire qu'il est dans l'incapacité totale de mentir. Il ne peut pas faire autrement que de dire ce qu'il pense.
Bah, c'est bien.
Donc c'est plutôt pas mal.
C'est menteur-menteur, ça.
Sauf que, du coup, il se soustrait de l'arbitraire des conventions sociales. Quoi. C'est-à-dire que dans certains cas, ça peut être gênant.
Par exemple, tu as des exemples ou pas ?
Non, je n'ai pas d'exemple.
Tu ne veux pas trop en dévoiler ?
Non, parce que il faut lire le livre.
Est-ce que c'est un peu comme dans Yes Man, où il est obligé de dire oui à tout ? Il y a un peu de cette idée ou pas ?
Non, justement. Il ne dit pas oui à tout.
Il dit la vérité.
C'est-à-dire
c'est
que
menteur.
Il est franc, c'est-à-dire il est franc, il est honnête, il est lucide, il est précis, il aime l'exactitude. Il est logique et il peut pas, c'est plus fort que lui, il peut pas ne pas dire aux gens
t'es moche,
tu racontes des conneries.
Tu n'as pas de mensonge par omission, tu n'as pas de mensonge ouais.
Donc, bon, ce personnage-là, il a un goût assez prononcé pour le Scrabble et surtout les listes de mots. Hein, parce que, et notamment pour le jeu du petit bac, je ne sais pas si vous connaissez le bac.
Ah oui, un animal.
Choisis une lettre.
C'est ça, voilà.
N.
Et donc, il fait des listes de mots, mais surtout, il a une passion complètement fou pour la, la recherche des catastrophes aériennes, en fait. Une recherche minutieuse et morbide sur le pourquoi du comment des catastrophes aériennes. Mais il va loin dans sa démarche, hein. C'est-à-dire qu'il récolte des articles de journaux, il voit des spécialistes, enfin bon, il a une espèce d'obsession, en fait, mais ça le marginalise encore davantage aux yeux de son entourage. Mais pourtant, c'est très instructif, finalement, son espèce de passion pour les catastrophes aériennes, parce que c'est riche d'enseignements, finalement, enfin, ça pourrait.
Après, tu prends plus l'avion, quoi.
Vous allez trouver ça con, mais je regarde jamais ou quasiment jamais la télé. Et quand je tombe sur une émission comme ça, de catastrophe d'avion, je suis scotché et je peux pas décrocher. Quoi.
Tu tombes souvent sur des émissions comme ça, de catastrophe d'avion.
Mais des fois, je les cherche. Ouais, faut bien le dire.
Ouais, mais c'est vrai qu'il y en a. Ouais.
Ouais, sur les chaînes de la TNT, il y a. Alors, en fait, numéro 23.
Le bouquin commence aux obsèques de sa grand-mère. Et il découvre avec stupeur et dégoût que les propos tenus lors de ces obsèques sont un immense tissu de mensonges.
Une hypocrisie, quoi.
Ouais, sa grand-mère, Marguerite, était une bonne épouse fidèle, une mère dévouée, une femme généreuse, ouverte pour les autres, enfin vraiment tout. Et, en fait, elle a trompé son mari pendant des années, elle l'a laissé s'enfoncer dans la drogue.
Elle était ouverte aux autres.
C'est ça. Elle a laissé s'enfoncer dans la drogue en l'incitant même, et en fait... Elle est vraiment, c'est une mégère. Elle considérait les handicapés comme des parasites, les homosexuels comme des malades mentaux. Elle regrettait amèrement l'abolition de la peine de mort. Enfin bon, en deux mots, c'est une vraie peau de vache.
Je trouve un peu dur, mais bon. A priori, je voyais plutôt quelqu'un de bien.
Oui. En tout cas, moi, je vois quelqu'un qui aime l'ordre et un peu le respect des valeurs traditionnelles.
Bon, bah voilà, c'est ça.
Tu es dans cette société de bobos.
Mais tu peux plus rien dire maintenant sans que tu sois taxé politiquement correct. Hein, c'est incroyable.
Et donc s'ensuit au travers du livre une succession de délicieux portraits de toute la famille. Bah, évidemment, tout le monde y passe. Hein, portraits peints au vitriol, dessinés avec précision. Les oncles, les tantes, les cousines, tout le monde se trouve. Tout le monde en prend pour son grade et disséqué, passé à la moulinette pour finalement apparaître comme la plus grande des médiocrités dans la petite bourgeoisie. De province.
Ça se passe en France, oui, d'ailleurs.
Oui, ça se passe en France, d'accord. Oui. Et donc, chaque membre de la famille en prend son grade, laissant apparaître des individus abjects, grossiers, d'une bêtise insensée et totalement formatée par la société.
C'est un peu misanthrope comme livre, non ?
Oui, c'est ça. Oui. Et donc, vient ici la famille et le bel esprit de Noël. Et enfin, moi, je trouvais que le décalage était immense, en fait. Mais ce qui est intéressant, c'est que le seul qui soit dans le vrai, finalement, dans cette famille, le seul qui soit dans le bon sens, qui échappe à la futilité, qui marche droit, comme le nom l'indique, comme dans le titre, il est considéré finalement comme un espèce de fou, comme un malade. Et au-delà de ça, je pense que l'auteur, ce qu'il a voulu faire émerger comme question, c'est qui est vraiment dans la folie aujourd'hui ? Parce qu'aujourd'hui, on est Noël. C'est la folie de la consommation à outrance et enfin voilà, dans tous les sens du terme, que ça soit de la consommation de produits.
Tu veux les chocobons ?
Ah, tout ça pour en arriver
les
là.
Les chocobons, je m'en fiche depuis tout à l'heure.
Tu refaire ton discours de j'aime pas Noël.
Heureusement, en fait, on est sur
le prétexte d'un livre.
Moi, de ce que j'entends, c'est plus parce que Noël, ça symbolise une tradition familiale, c'est une fête familiale, et qu'au travers de cette fête-là, il utilise ce prisme. Parce que la société de consommation, il n'y a pas besoin de Noël pour qu'elle existe. Hein.
Bien sûr.
Elle est quand même vachement
exacerbée. L'accent du Noël, accent.
Bien sûr, mais c'est ce que dit Nico, c'est qu'elle est exacerbée à ce moment précis. Parce que le roman ne se passe pas du tout à Noël, ça se passe le jour des obsèques de la grand-mère. Donc ça n'a rien à voir avec Noël.
Oui, non, mais donc on est bien d'accord.
C'est moi qui fais le parallèle avec Noël.
C'est-à-dire
ce bel esprit de famille, tu vois. Tout le monde, il est beau, tout le monde, il est gentil. Puis en fait... non.
Tout le monde c'est de la merde.
Après, on peut le voir aussi comme une parenthèse enchantée pendant laquelle petite trêve des confiseurs.
Voilà, avant qu'on se refoute sur la gueule.
Mais en fait, ce que veut dire l'auteur, c'est qu'au travers du portrait de la grand-mère, qui est une sorte de. Qui est traduit comme une. Enfin, qui est montré au travers des obsèques comme le modèle de tolérance et de bonté, etc.
C'est une vraie peau de vache.
La grand-mère idéale, etc. Si on transpose ça à grande échelle, c'est-à-dire à l'échelle de la société. Ça montre vraiment les aberrations de notre époque.
De la norme.
C'est-à-dire que on continue, par exemple, à abattre les dictatures et tout en vendant des armes, à produire toujours plus, tout en essayant de préserver la planète,
à supprimer les fonctionnaires tout en améliorant le service public.
Alors ça, c'est pas forcément...
Il faut en discuter de ça. Hein.
Et surtout, dans le bouquin, sinon...
Ça, c'est moi. Et surtout...
un billet d'humeur, en fait.
Il y a un tas d'exemples comme ça. Préserver les ressources en eau et développer les gaz, la recherche des gaz de schiste. Voilà. C'est tout ce paradoxe entre le paraître et la réalité.
Entre le discours et les actes.
Voilà. Et donc, j'avais juste envie de vous lire un extrait. Donc
Moi, par contre, ça me fait un peu chier. Non.
tu vas voir que c'est le début du livre. C'est
que les 27 premières pages, ça prendra pas trop de temps. Ça.
Mais non, parce que c'est
Vas-y.
Le livre est très court, en fait.
Te laisse pas abattre. Ta rubrique est plus longue, en fait, que le livre.
Ma rubrique est plus longue.
Il fait combien de pages ?
130 pages.
Ah oui, tu me prêteras ?
Regarde, il est là. Tu es là ?
Et donc, je vous lis juste le début.
C'est pas fait chier pour la couverture, par contre.
Il aime bien le jaune.
Il a raison, ça coûte moins cher, puisqu'il est en train de dire qu'il faut pas consommer.
Et donc, ça commence comme ça. Et moi, c'est ce qui m'a séduit. Je ne comprendrai jamais pourquoi, lors des cérémonies de funérailles, on essaie de nous faire croire qu'il y a une vie après la mort et que le défunt n'avait, de son vivant, que des qualités. Si un dieu de miséricorde existait, on se demande bien au nom de quel caprice il nous ferait patienter quelques décennies dans cette vallée de larmes avant de nous octroyer la vie éternelle. Et si les humains se conduisaient aussi vertueusement qu'on le dit après coup, l'humanité ne connaîtrait ni les guerres ni les injustices qui déchirent les âmes sensibles. Voilà en gros sa logique, en fait.
Vraiment, tu m'as donné envie de le lire.
Et voilà sa logique. Donc c'est un livre vraiment... moi, je trouve qu'il est très vrai, vraiment saisissant de vérité, qui est court, et qui est un petit peu inédit et qui est à la fois dérangeant, drôle, parce qu'il y a des choses qui sont franchement drôles, mais je ne peux pas les dévoiler, sinon vous allez...
Ah non, faut pas spoiler.
Voilà, spoiler. Si je spoil les trucs. Mais en tout cas, qui tend aussi quand même un miroir dans lequel les saints d'esprit que nous sommes censés être, je pose la question, un point d'interrogation, finalement, est-ce qu'on est finalement peut-être pas mieux que ces gens qui ont une espèce de comment dirais-je, de problèmes avec dans le domaine de la société, et qui dénonce en fait toutes ces vérités, mais finalement, est-ce que ça sert à quelque chose de dénoncer toutes ces vérités?
Heureux les simples d'esprit.
Voilà. Est-ce que finalement ça mène qu'à tourner en rond, finalement, comme le titre du livre,
en fait.
Marcher droit, tourner en rond.
Et la boucle est bouclée. Bravo.
Et la boucle est bouclée.
Alors, juste une question. Du coup, tu as découvert cet auteur ou ce livre comment, en fait?
Comment je l'ai découvert?
C'est vrai que je ne connaissais pas du tout ni l'auteur, ni le bouquin.
Et en parallèle, je vais poser la même question, tu vas pouvoir répondre. C'est un roman qui vient de sortir ou c'est quelque chose qui a plusieurs années? Est-ce que c'est,
il a été publié en août 2016.
D'accord.
Donc
d'accord.
Il est assez récent, hein. Ouais, en août 2016. Comment je l'ai trouvé? Je ne sais pas. Sur des sources que je ne peux peut-être pas dévoiler.
Ah, oh là, waouh, tu tises à mort là, dis donc.
Non, mais on veut pas l'adresse de ton revendeur. On demande juste.
Non, mais je veux dire parce que c'est vrai que c'est
sur Grindr.
Non, mais je me souviens jamais en fait. J'ai plusieurs sources, etc. Et puis je regarde un petit peu ce qui est dit.
Tu veux dire que tu l'as pas acheté au rêve de l'escalier?
Non, celui-ci non.
D'accord.
Ah voilà. Ah
ouais. Mais ça aurait pu être un conseil ou ça aurait pu être une critique.
Ne m'a pas été conseillé par. D'accord. Par le rêve de l'escalier.
On voit le genre. Bon.
Excuse-moi.
Pas toujours, hein. Des fois.
Non, mais des fois, ça peut être. Je sais que
ça fait vomir.
Je vais mourir. Avant que je meure, je voudrais dire une dernière chose. Non, mais que ce soit sur des magazines. Ça, ça
non, mais vraiment, c'est un.
Merci, Madidouille.
Bon, faites votre truc ensemble, là.
Mais c'est vraiment très drôle. Et ça se lit très vite.
Ben oui, je sur 30 pages.
Voilà.
Très bien, bah écoute, merci.
Qui c'est qui respire très fort dans son micro là?
Je crois que c'est pas moi.
C'est toi? Il faut que tu te décales un peu, c'est désagréable.
Donc on est vraiment pas tous malades, mais. Merci Christophe.
Donc Emmanuel Vernet, Marcher droit, tourner en rond. Très édition bien. Verdier. Voilà.
Ludo, est-ce que tu te sens de le faire tout de suite ou moi?
Ouais.
Comme tu veux.
Oh bah c'est avant comme mourir, vous voulez. Bon bah je veux bien l'attaquer maintenant. Et à la limite, ça va faire un petit contrepoint à la rubrique de Christophe. Et je vais vous expliquer après pourquoi.
Eh bah très bien.
C'est l'hypocrisie, etc. Enfin, en tout cas, enfin bref, je vois.
Voilà. Je n'en dévoile point trop maintenant.
J'ai hâte.
Et maintenant, la parlette de Proust.
Hello and welcome. Hit the record button.
Parlez,
il t'a plu le film?
Oh. Vas-y. Bonsoir. ouais, la Madeleine de Proust. Donc,
c'est ta chronique. Ouais.
C'est ma chronique. Donc, en fait, c'est Noël. Donc, comme c'est Noël.
Finissons-en. Ouais.
Voilà, un petit fond musical que ça dramatise un peu le propos.
C'est le générique de fin de ta chronique. C'est, ça,
c'est le générique du début de ce que je vais parler. En fait, bah, c'est Noël. Hein, c'est la fête. On est tous contents autour d'être. Quoi? Je parle trop fort. C'est Noël, et donc comme c'est la fête et qu'on mange bien à Noël, c'est festin, voilà, le bon repas, bonbons, etc. Et ben c'est l'occasion, je me suis dit, Madeleine de Proust, et si on trouvait une thématique qui colle à peu près à cette ambiance de festivité et de partage.
De remplissage de panse.
De remplissage de panse, exactement. Bah, pour ça, rien de mieux qu'un bon film de cannibale, hein, pour célébrer tout ça. Alors donc, je vais vous parler un peu de ça. Je vais vous parler d'un film en particulier qui s'appelle The Green Inferno. Autrement dit, pour tous ceux qui sont un peu anglophones comme moi, l'enfer vert. Donc, The Green Inferno, alors vous allez me dire, The Green Inferno, c'est un film qui est sorti. Donc,
c'est pas Hell?
Comment?
L'enfer, c'est pas hell.
Inferno aussi, c'est là, c'est, si tu veux. Inferno, c'est enfer, c'est le synonyme latin, on va dire. Donc tu as plusieurs. En termes. Comment
c'est américano-mexicain, le
voilà,
film, peut-être,
c'est
non
ça, exactement. Mais je vous expliquer l'origine de ça après, pourquoi. Donc, salut. Donc, The Green Inferno, en fait, est un film qui est sorti en 2015. Alors, vous allez dire, waouh, ouais, quoi, Madeleine de Proust, tout ça, 2015, qu'est-ce que tu nous fous, c'est dégueulasse.
Rembourser nos invitations,
rembourser, tout ça. Voilà. Je vais vous raconter tout ça. Pourquoi j'ai choisi ce film-là? Pourquoi elle se mouche à côté de moi? Alors, je vous raconte en deux mots le pitch de ce film fort excitant au demeurant. Alors, on a un petit groupe d'étudiants new-yorkais, comme ça, qui est plutôt propre sur lui, qui décide un beau jour de se rendre en Amazonie pour faire barrage, vous savez, à la déforestation. C'est là que je vais faire écho à la discussion de Christophe. Pour faire barrage à la déforestation et aux bulldozers qui détruisent toute cette belle forêt amazonienne. Et puis, donc, ils font ça non seulement pour faire barrage à cette déforestation, mais aussi pour protéger, oui, c'est cette dernière tribu de la forêt qui reste, j'allais dire, coupée du monde, d'accord? Alors, oui, c'est tribus qui ne sont pas entrées en contact avec le monde dit civilisé. Les cons, évidemment, il ne fallait pas le faire. Parce qu'en fait, leur petit trip activiste, là, qui est déjà effectué dans une première partie, mais un petit peu tendu, bah, en fait, va encore plus partir en sucette dès lors qu'ils repartent à la maison en avion. Et que là, c'est le drame, l'avion part en cahuète et il s'écrase. Exactement. Et il se retrouve.
C'est pour Freddy, ça.
C'est pour Freddy, ouais, vraiment.
Exactement. Oh, tu vas adorer ce film.
Alors, c'est le réacteur conducteur droit ou gauche.
Et donc,
il y a panique ou pas?
Alors, il y a panique à blinde dans le truc, mais je veux pas trop spoiler pour le cas où vous souhaiteriez le voir, ce dont je ne doute pas après ma rubrique. Ils sont donc capturés par une tribu qui les prend pour des ennemis. Les cons. Car oui, moi, enfin, pourquoi un tribu qui d'ailleurs, je sais pas ce que j'ai écrit là, mais oui. En tout cas, une tribu qui les prend pour des ennemis. Car oui, moi aussi, je quand ils se mettent à leur parler, j'ai pu moi aussi comprendre. Car je parle le Balutu Bambitu. Toi, croquer, moi, je vais. Et donc, c'est un peu, c'est un dialecte péruvien, enfin, amazono-péruvien.
T'as dragué avec ça ou pas?
Bah, attends, la suite arrive après. Bref, en tout cas, ces mecs-là les ramènent au village. Quoi, les ramène au village.
Il a pécho didouille, quoi.
Les ramène au village.
Il a pas réussi à me bouffer.
Et une fois qu'ils ont ramené cette bande de jeunes gens,
il paraît qu'il fait l'excision buccale directement.
Alors, c'est rigolo que tu parles de ça parce qu'il y a dit.
C'est rigolo, tiens.
En fait, il a bouffé ce qui l'intéressait, c'est tout.
Exactement. Donc, comme je vous dis, il ramène. Donc la tribu ramène ce groupe d'étudiants au village et, dans la foulée, ouvre une franchise à hamburger. Autant vous dire que le petit méchoui improvisé par les géos du coin, ce petit club d'encontre, rencontre un vif succès auprès de tous les locaux qui sont là, au grand dam de nos jeunes aventuriers de salon bien dodus. Et qui n'ont demandé pas de temps, il faut bien le dire. Alors, franchement, moi je vais vous dire, honnêtement, ces gars-là, je ne vois pas trop de quoi ils se plaignent en fait, parce qu'en fait, ce qu'ils voulaient, en réalité, ils se retrouvent à incarner le but même de leur mission. Et quelle était leur mission? C'est justement tout le sel du truc, c'est le don de soi. On parlait avec Christophe tout à l'heure, tu parlais de
partage,
etc. Et bien là, c'est exactement ça. Ils incarnent le don de soi pour les autres. Car aujourd'hui, on n'a plus le droit ni d'avoir faim, ni d'avoir froid. Terminez le chacun pour soi. Quand je pense à toi, je pense à moi. Et ça, autant vous dire que les indigènes, ça, ils ont bien compris le principe. Donc voilà, je m'égare. Revenons sur le film. Revenons sur le film. Alors, Green Inferno, comme je vous disais, a été réalisé donc en 2013 par Eli Roth. Eli Roth, à qui on doit des comédies fun, rigolards, des décomplexés comme Cabin Fever, Hostel 1 et 2, Knock Knock. Bref, en fait, un gars qui aime le rouge qui tache, un gars qui est bien dans sa tête. Et puis aussi un gars qui a fait l'acteur dans plusieurs films. Vous avez déjà vu Inglourious Basterds notamment. Oui. Vous souvenez du gars à la batte, le sergent Domikoski, Tamarovski, le type qui tue les Allemands à la batte. Bah, c'était Eli Roth. Il a joué un piranha, Scream 4, etc.
Eli Roth, pour ceux qui, comme moi, parlent anglais, viennent réaliser.
Comment tu dis?
E-L-I-R-O-T-H, c'est ça?
Exactement, Eli Roth. Ah oui, Eli Roth. Eli Roth, voilà. Bref, et donc, comme je vous disais, c'est là que vous dites, mais effectivement, film réalisé en 2013, sorti en 2015, comme je vous disais tout à l'heure, pourquoi ça? Voilà. Et pourquoi tu nous fais ça, Ludo?
Parce que t'as envie d'en parler, c'est tout.
Les organismes...
Pourquoi? Alors,
Cannibal Holocaust.
Ça n'est pas un remake.
C'est un hommage.
C'est un hommage.
Oh.
C'est un hommage.
Rien préparé.
Voilà, exactement, c'est un hommage. Oui,
un
oui.
point pour Nico.
Et oui, c'est un hommage. Alors, donc d'abord, alors, effectivement, c'est un hommage. De quoi il s'agit?
D'un hommage.
En fait, effectivement, Green Inferno, c'est un hommage. Un hommage
à la forêt. C'est un hommage à la forêt.
Aussi, mais c'est un hommage qui est hommageux. C'est un hommage hommageux. En fait.
D'accord.
Un hommage qui, à mon sens, est très réussi.
Marché droit, tourné en rond.
Un hommage au film de cannibale italien des années 70-80. Donc là, on y arrive, hein, évidemment. Et notamment, ces films qui ont fait vraiment les beaux jours, donc à la fois des salles de quartier de l'époque, mais aussi des vidéoclubs dans les années 80.
Hervé Aguirre n'est pas là, on ne va pas faire semblant de s'intéresser.
Non, voilà. Et notamment, il fait...
D'ailleurs, on dit Aguillard ou Aguilar?
C'est d'abord, c'est pas Hervé, c'est Thierry, s'il te plaît. Et notamment, il fait effectivement hommage à un film en particulier, Cannibal Holocaust, de Ruggero Deodato. Vous vous en foutez comme de votre première chemise, je le comprends bien, mais la précision est importante car je suis un peu ce que tu veux, moi aussi un petit peu. En fait, Cannibal Holocaust était un des films d'horreur les plus marquants de son époque, et ce film avait suscité une énorme polémique à sa sortie, et ce pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'en fait, pour son côté très snuff, en fait, tel qu'il avait été fait. Alors je vais expliquer ce qu'est le principe de snuff movie. C'est-à-dire, en fait, où l'on croit que les gens qui sont tués à l'écran sont tués pour de vrai. Et notamment, Ruggero Deodato, à l'époque, avait fait signer un contrat, en fait, dans le contrat aux acteurs, comme quoi il ne devait pas apparaître un an après la sortie du film, pendant un an, pour justement faire planer l'idée que les gens étaient vraiment morts, en fait. Voilà, donc il y avait cette place. C'était tourné.
Sacré plan marketing.
Cannibal, exactement. Cannibal Holocaust est aussi un des premiers films qui utilise le found footage. Puisqu'en fait, le film est un
foutage de gueule, tu veux dire?
Je parle couramment.
On lui donne quelques cours quand même, Ludo.
Puisqu'en fait, dans le film, effectivement, on retrouve notamment une caméra, on trouve des extraits de films, de bandes documentaires que les gars sont en train de tourner. C'est à partir de là qu'ils vont reconstituer ce qui est arrivé à ces malheureux journalistes à l'époque. Puisque ces journalistes dans Cannibal Holocaust tournaient un documentaire qui s'appelait The Green Inferno. C'est subtil. Quoi qu'il en soit, il y a aussi un autre aspect aussi du film qui a fait extrêmement polémique. Il a été poursuivi par les autorités, hein, Ruggero Deodato, j'y reviendrai. Il y a également, par contre, pour le coup, des tueries d'animaux qui sont 100% réelles, pour le coup. Oh. Donc, en fait, qui sont même des mises à mort assez cruelles dans le film. Et Ruggero Deodato a été poursuivi par les autorités. Et il a été même, il s'est même retrouvé dans les tribunaux, et il a dû démontrer devant les tribunaux que les effets spéciaux, comment ils étaient faits, pour montrer effectivement, et puis de faire venir les acteurs pour montrer que tout ça n'était qu'un film. Alors un marketing. En tout cas, que c'était un plan marketing, ouais. Effectivement, mais voilà.
N'empêche que les animaux ont été tués quand même.
Voilà. Par contre, le truc, c'est qu'effectivement, autant pour les êtres humains, il n'y avait pas effectivement de mise à mort. Pour les animaux, c'était une autre paire de manches, puisque les animaux ont été tués pour les besoins du film.
Mais c'était quoi comme... comme type d'animaux?
Des chimpanzés, par exemple, à qui tu coupais
c'est une salopée de moustique, c'est pas
par là, exemple, tu as notamment une scène où il coupe la tête du chimpanzé pour manger la cervelle, ce genre de choses. Et d'autres animaux qui sont tués. En fait, c'est la raison, moi, pour laquelle j'ai pas fait. Alors, j'aurais pu vous parler de.
Joyeux Noël, Félix.
J'aurais pu vous parler de.
C'est ça, ouais.
J'aurais pu vous parler de Cannibal Holocaust et de faire un sujet sur Cannibal Holocaust. Je l'ai pas fait simplement pourquoi?
Parce que c'est Noël et que c'est gay Noël.
Simplement parce qu'effectivement, j'ai ma limite et que effectivement j'aime bien les films, voilà, mais dès lors qu'il y a vraiment, par exemple, des morts d'animaux, j'avais regardé un autre film dans le même genre qui s'appelle Cannibal Ferox, et c'est un film dont j'avais interrompu le visionnage parce qu'il y avait effectivement
t'as pas pu aller jusqu'au bout, alors
du coup Cannibal Ferox, je ne l'ai pas encore vu, peut-être que je le regarderai un jour, mais dans un autre genre, Cannibal Ferox, il y avait ce même principe là et du coup j'avoue que c'est le genre de choses qui m'arrête un peu. Moi j'aime bien quand c'est rigolo, que ça va, voilà.
Comment tu sais que, enfin là pour le coup, ça a été quand tu regardes un film et... Il y a des animaux qui sont tués, comment tu sais que c'est pour de vrai?
Bah là, parce que ça fait bah, 30 ans et que du coup, il y a eu un scandale.
Je parle pour celui-là, oui, mais en général...
Ah, sur Cannibal Ferox, c'était évident, en fait. Cannibal Ferox, le film que j'ai vu, où en fait, ils avaient attaché une espèce de...
Non, c'est bon.
En tout cas, tu peux pas...
Un petit chaton au pied du sapin, enfin, un truc.
En fait, ils avaient attaché un animal à un pieu.
On a dit qu'on voulait pas savoir.
Non,
mais c'est bon, j'ai compris. Okay, d'accord. Ça y est, j'ai compris.
Si Marius avait été là, il nous aurait raconté des histoires avec les.
On s'en rend compte tout de suite.
Ouais, d'accord.
Donc voilà. Et donc, ce qu'il faut savoir, c'est que le réalisateur, lui, à l'époque, Ruggero Deodato, avait taxé ses critiques d'hypocrites. Et pourquoi? Mais ça se discute, il y a un vrai débat. Ça serait intéressant d'avoir votre point de vue là-dessus. Parce que pourquoi? Lui, il disait, mais attendez, vous me faites tous marrer là. Vous êtes là tous à vous plaindre,
scandaliser,
à pleurnichouiller,
parce que vous vendez des armes à droite à gauche.
Pas forcément ça, à vous offusquer de voir des morts d'animaux, alors qu'en fait aujourd'hui vous dans votre assiette vous bouffez de la viande et ça vous pose pas le moindre problème du monde. Donc en fait il expliquait que de toute façon aujourd'hui le problème c'est qu'il y avait, il dit moi j'étais en tant qu'enfant j'ai vécu dans une ferme etc où pour moi les morts d'animaux étaient quotidiennes et en fait on les mangeait, on s'en servait etc.
Le chimpanzé c'était pas pour le manger je pense, par contre.
Si la cervelle il t'a dit
Là-bas le manger, mais quoi qu'il en soit, il dit en fait aujourd'hui la bouffe est prépackagée, mais ce que vous bouffez de la viande, faut savoir que dans les abattoirs c'est le même principe. Et que donc, en gros, ne venez pas me chercher sur ce terrain-là. Ce qui lui avait pu lui être répondu, c'était que...
C'est pas pour du divertissement.
Exactement. Mais on peut aussi en débattre. C'était le débat, exactement. Donc le débat était là-dessus. Est-ce que dans ces cas-là, oui, là tu tues des animaux pour manger ou tu tues pour du simple divertissement? Ce qui était en l'occurrence le cas. Donc voilà, c'était un petit peu le comment on appelle ça? Je me paume, voilà.
C'est étonnant parce que c'est tellement bien écrit. Et...
Donc voilà, ça c'était pour la partie un peu pour vous dire qu'effectivement.
Introduction.
Cannibal Holocaust est un film en fait donc qui a vraiment marqué l'époque et qui aujourd'hui est considéré comme un statut de film culte. En tout cas, parmi les nombreux films qui a pu exister.
Justement, il n'a pas été censuré, il peut toujours être diffusé et trouvable, distribué en DVD ou des choses comme ça.
Il y a encore à Cache Express, tu peux le trouver pour pas cher, en fait, si tu veux le voir. Donc, vraiment, un film que tu peux retrouver, que tu peux acheter en version collector, de luxe, de DVD, ce que tu veux. Tu as tout ce qu'il faut. Alors, en fait, donc, je reviens à Green Inferno, donc, est vraiment Eli Roth est vraiment un amoureux de ce film-là. Et il a vraiment voulu lui rendre hommage via The Green Inferno. La différence étant que Green Inferno est, on va dire, entre guillemets, beaucoup plus propre sur lui, évidemment, que Cannibal Holocaust. Il est plus, entre guillemets, aseptisé, si je peux dire. Parce qu'il faut savoir que l'horreur italienne, à l'époque, était quelque chose de très craspec. C'était vraiment un truc, c'est
explicite.
C'est à la limite du soutenable, quand même, en général.
Pour que tu dises ça, je pense que beaucoup autour de cette table qui ne vont pas regarder.
Voilà, je parle de Cannibal Holocaust. Oui, celui-là n'est pas piqué d'un ton non plus. Mais celui-là, on va dire qu'il est plus fun, quoi. Il est plus distrayant, il est plus gourmand. Il revisite.
Il y a de la mâche, quoi.
Il peut être vu par toute la famille, petits et grands, par le chien aussi. C'est un peu. En tout cas, il peut être vu comme une initiation, on va dire, à l'univers étranger merveilleux. Du film de mangeur de tétines, en fait, vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire que ça vous permet, vous rentrez par cette porte-là, et après, derrière, si vous avez envie d'aller plus loin.
Un univers s'ouvre à toi.
Un univers s'ouvre à vous, c'est-à-dire qu'après, si vous voulez découvrir d'autres films, bah voilà, Cannibal Ferox, La montagne du dieu cannibale, Mondo Cannibal, et puis dans un registre.
Cannibal chez les nudistes, non?
Voilà. et si jamais les tribus amérindiennes, genre le folklore un petit peu, les mecs avec des pagnes et puis les cheveux comme des brosses à balai, ça vous saoule un peu. Vous avez d'autres types de films de cannibales comme Massacre à la tronçonneuse, Blood Feast, La colline à des yeux, Le silence des agneaux, et puis pour les trucs vraiment, vraiment, vraiment très, très propres sur soi, Soleil vert, Malout, et puis tout dernièrement Grave pour
dont tu nous avais parlé. Oui,
voilà, de Julia Grave, du Julia.
Tu viens quand même juste de spoiler au moins deux films.
Non, pas deux.
Tous.
Ouais, moi, tout mélangé, personne ne se rend compte vraiment.
Mais de toute façon, personne n'écoute
vraiment.
Et je le souhaite pas vraiment. Il y en a un qui t'avait cramé le truc déjà bien avant moi.
Oui, d'autres
je crois. Ouais. Donc, en fait, je dirais que si on revient avec Green Inferno par rapport à tout ça, je sens que cette rubrique va être un peu longue. il faut savoir, donc je vais vous raconter en fait.
Culpabilisez-moi pour la mienne après.
Il y a aussi un aspect très intéressant dans ce film-là, parce qu'on pourrait se dire bon, ok, d'accord, le film, c'est quoi ton film? Les mecs, on va assister à une suite de séquences complètement
gore. D'ailleurs, oui, l'histoire, est-ce que ça se tient un peu?
Eh bien, en fait, moi.
C'est ça. Alors, c'est fun, c'est machin, mais.
Moi, je trouve le film. Pardon, oui. Très fun, c'est qu'en plus, ce film. un sous-texte que moi, qu'on peut trouver lourdingue ou pas, que moi je trouve très intéressant, c'est là que je vais reboucler avec ce que disait Christophe tout à l'heure, c'est qu'en fait il se double d'une critique vachement actuelle sur l'activisme, sur le côté un peu gendarme du monde, le côté bien-pensant sur le net. Alors, vous allez dire, de quoi tu me parles ? Parce qu'en fait, cette bande de jeunes qui part en fait en Amazonie pour aller sauver la cause de la planète, en fait, comment on appelle ça ? Elle y va pour un autre but. En fait,
pas forcément avoué, quoi.
C'est-à-dire que le but pour lequel les jeunes s'enrôlent ou vont là-dedans, il y a un côté très bien-pensance de salon. C'est-à-dire que, en gros, je suis...
bobo, quoi.
Non, pas robot. En fait,
non, bobo.
Non, pas robot, non. Je sais pas pourquoi t'insistes. En fait,
c'est avec Will Smith, I Bobot.
En fait, le truc il est suivant, c'est qu'en fait, si vous voulez, l'idée, le but de l'étudiant, c'est pas tellement de l'activisme en soi, mais c'est plutôt d'avoir des followers. Vous savez, le principe aujourd'hui, on est sur Twitter. Dès que tu as une vidéo, il faut que tu te sentes obligé de dire que bah, tu sais, t'es contre les massacres aux abattoirs, t'es contre la guerre, c'est moche le racisme. Et en fait, l'idée, c'est.
La bien-pensance. Wow,
c'est la bien-pensance. Et si t'as pas partagé telle vidéo, waouh, mais ouais. Partage pas cette vidéo, mais comme, c'est quand même incroyable. Et donc,
si tu penses aussi.
Partage, je pense. Ou genre. Si, pardon, mais.
Qui va oser ?
Qui va oser partager ça, ouais, c'est ça.
Vous voyez ce que je veux dire ?
Accepte le défi de cette photo. Non.
En gros, tu vois, c'est ça. Si tu partages pas la vidéo sur les Pussy Riot qui se sont fait emprisonner, c'est que tu es pro-Poutine. Enfin, vous voyez ce genre de truc-là. Il y a ce côté-là, et puis il y a l'aspect aussi. Avoir une cause.
Ah, merde. Vous
voyez ? C'est qu'à chaque fois, on a une cause, on se défend pour une cause, et puis hop, dès que c'est fini, on passe à autre chose. Mais en fait, le plus important, c'est plus de montrer. En fait, c'est pas tellement le fait de faire, mais c'est de montrer que, en fait, vous voyez, moi aussi je suis concerné, je suis conscient et je m'engage. Mais dès que c'est fait, boum, je m'en retire et je passe à la cause suivante. Et le film en ça est vachement intéressant parce que les jeunes que l'on suit, on voit comment ils se retrouvent enrôlés par une espèce de gourou d'une association qui les embarque et comment, en fait, entre guillemets, on va suivre la façon dont ils sont manipulés.
Mais ça, un peu comme je suis avec vous, en fait.
On le voit très vite, voilà, on voit très vite derrière comment ils sont embarqués dans une histoire qui les dépasse complètement. Et comment, en fait, d'un endroit où ils sont très bien, c'est-à-dire, puisque l'histoire démarre à New York, dans l'Université de Columbia, comment dans ce contexte extrêmement très étudiant, très encore une fois, hein, très Starbucks, très propre, très machin, comment ils se retrouvent propulsés dans un monde où là, ils vont perdre tous leurs repères, mais à un point tel que, en fait, et à quel point les codes moraux et les normes ne sont plus du tout les mêmes. Et donc, je trouve que l'aspect du film en ça est vachement intéressant. Donc,
il mange des rouquins dans ton film, hein. Le gourou, non.
C'est n'importe quoi. Alors,
il perd pas le fil de son truc.
Non, 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 non. Il
avance.
Le film.
Mais
le
vous
film...
remarquerez que c'est un manga, hein, ce qui c'est notre. Il Alors, tombe dans tous les sens.
Ouais. Le film a fait l'objet d'une controverse quand même malgré tout.
Ah oui, c'est l'objet de ton chapitre.
C'est l'objet de la controverse.
Chapitre 7, et oui, la controverse.
En fait,
chapitre
2. Une controverse. Et en fait, c'est une ONG qui, évidemment, est montée au créneau suite à la sortie de ce film-là. Une ONG qui s'appelle Survival International. C'est une ONG qui milite en faveur des droits des tribus indigènes et des peuplades souhaitant vivre sans contact avec le monde dit civilisé. En fait, Survival International considère que ce film, en fait, porte une idéologie très colonialiste, oui. Très colonialiste, et en plus stigmatise ces populations en les représentant comme des sauvages, voilà, enfin vraiment ça. Et là, Eli Roth est monté au credo, j'ai de la même manière que Deodato, en disant mais c'est n'importe quoi, je considère que c'est pas du tout recevable votre point de vue, puisqu'en fait il dit en gros, moi ce que je fais c'est une fiction à propos d'une tribu fictive, et franchement penser que faire une fiction à propos d'une tribu fictive puisse faire du tort aux tribus indigènes, alors qu'aujourd'hui ce sont les compagnies gazières qui détruisent littéralement ces villages au quotidien. C'est complètement absurde. En fait, le vrai problème,
vous
il est pas
tellement. Vous trompez.
Vous trompez complètement. Moi, le film que je fais, c'est pas ça qui va faire que on va commencer à les bousiller des indigènes. C'est pas mon film qui va justifier quoi que ce soit. Par contre, allez-y sur ces compagnies internationales qui massacrent en fait carrément des tribus entières pour leur truc. Et donc voilà, ça c'est un aspect qui du coup a été un des aspects du film. Alors, le faut savoir d'ailleurs pour cette tribu. Pour la tribu en question qui joue le rôle d'une tribu. Enfin, c'est pas des acteurs qui jouent. Donc c'est un côté, c'est ça aussi peut être assez, voilà, ça peut être aussi assez troublant, c'est qu'en fait quand ils ont fait leur repérage, ils sont allés au Pérou, et au Pérou donc ils essayaient de trouver en fait un endroit qui puisse être suffisamment sauvage.
Ouais, il y a vraiment que des roues. Hein, gourou,
c'est vrai qu'ils ont trouvé le gourou.
Un troublant et un Pérou en même temps.
Ça sent encore plus mauvais qu'un pré classique. Là.
Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que en fait, ils ont en remontant donc un des. Et
franchement, ça se trouve Christophe, il était où, on ne sait pas.
Ouais, je veux que ça peut.
Il n'y a plus de traces.
Donc en remontant un des confluents là de l'Amazon, ils sont tombés sur cette tribu, et en fait une tribu qui en fait n'avait pas de télévision ou quoi que ce soit.
Les ringards.
Et donc ils sont arrivés en fait là. Alors c'est là qu'on peut justement considérer cette discussion, c'est qu'ils sont arrivés avec une télé. En fait, ils n'avaient même pas de concept de ce qu'était un film. Et ils ont donc ramené une télé, un groupe électrogène, et ils ont projeté. Et alors c'est là que j'avoue que là ça me peu surpris, ils ont projeté Cannibal Holocaust.
Ah. Ah oui.
Voilà, alors à la production. Et Eli Roth d'expliquer que lui, sur le coup, il a dit, mais vous êtes fous, vous projetez ça. Et en fait, les gars qui étaient au niveau du repérage, qui faisaient ce travail-là, expliquaient, en fait, ce qu'on voulait, c'était leur montrer, voilà, le pire truc qu'on pourrait s'amener à réaliser et pourquoi on le fait, quel est le concept derrière, pour que si la tribu dit OK pour jouer, qu'ils sachent dans quoi ils se retrouvent à jouer. Et en fait, il se trouve que ça a fait marrer la tribu. D'accord. Qui ont pris ça pour une comédie, en fait. Mmh. Et alors, on pourrait se dire, mais faut pas les prendre pour plus neuneux qu'ils sont.
Ah non, mais c'est pas ça. C'est que c'est pas les mêmes codes et les mêmes.
C'est pas les codes, mais surtout, c'est pas qu'ils vont bouffer la chair humaine. C'est
alors, ils pouvaient proposer pire, peut-être, non?
Non, mais en fait,
c'est de la gnognose.
Alors attends, tu vas voir, parce que eux, ça les a éclatés d'aller jouer ce truc-là. Bah, mais ils expliquaient, en fait, il faut pas les prendre pour des neuneux. Ils savent très bien ce que c'est. Ils ont une très grande tradition de contes et de l'histoire racontée. Ouais. Et donc, en fait, ils disent, mais ils savaient très bien qu'ils étaient en train de jouer, de prétendre quelque chose. Il ne faut pas penser qu'ils sont... Voilà. Et que donc, du coup, tout le monde voulait être cannibale dans la tribu. Tout le monde avait envie de jouer le truc. Donc,
c'est un jeu de rôle, en fait.
Et donc, ils sont complètement rentrés dans le truc.
Ils sont curieux.
Et voilà. Et l'actrice principale, Lorenza Iso, qui est l'actrice donc, qui joue Justine dans le film, comme une beauté chilienne, je ne vous en parle même pas.
T'as du mal à te retenir quand même.
Et en fait, expliquer justement que le tournage avait plus un côté très camp de vacances, puisqu'en réalité, ça se passait très très bien, ça se passait dans le plus grand fun. Pour conclure, en fait, le film n'a pas récupéré vraiment de bonnes critiques, mais surtout auprès de la population, on va dire, des cinéphiles ou geeks ou ce que vous voulez, qui sont un peu dans leur truc, sorti de Cannibal Holocaust, t'as pas le droit de toucher au truc, etc. Et donc, ouais, il s'est pris des critiques assez.
Les gardiens du temple, un peu.
Les gardiens du temple, exactement. Donc, il s'est fait un petit peu choper là-dessus. Donc, il a des, par exemple, sur Rotten Tomatoes, ce genre de choses-là, il a pas forcément de bonnes critiques, alors que par contre, il en a. Par d'autres types, l'écran fantastique ou Manouise, il a de très bonnes critiques. Ça dépend vraiment de qui l'a vu. Moi, en tout cas, je considère vraiment le film, en tout cas, moi, j'en parle parce que pour l'avoir vu, le film, il te chope à la première seconde et il te lâche plus jusqu'au bout, en fait. C'est vraiment, c'est un film d'aventure horrifique. Clairement, il y a quelques séquences qui sont franchement, faut être prêt à le voir, quoi. Âme sensible. S'abstenir littéralement, mais vraiment.
Mais tu disais tout à l'heure que c'était pour toute la famille.
Voilà, moi je trouve qu'il mérite bien.
Mais ta famille en fait.
Voilà. Mais il mérite mieux que la réputation qui a pu lui être faite dans un certain milieu.
Il est quand même signalé moins de 36 ans. Interdit au moins de 36 ans.
Moi, en tout cas, je le recommande chaudement, vraiment, pour ceux qui auraient envie de jeter un œil dessus.
Pour les fêtes de Noël particulièrement.
Pour les fêtes de Noël, on pourrait se faire un visionnage un de ces jours si vous avez envie.
Persiste quand même fortement à chaque fois.
Et je vous garantis qu'aucun
plutôt
animal.
Plutôt pour le 24 au soir ou le 25
En même temps, et tu sais quoi, je veux dire, regarde un truc, toute l'hypocrisie du monde.
Regarde
le truc. À Noël, on mange de la dinde. Les mecs là, ils se tapent des dindes, ils mangent toutes les dindes de.
Ça
du
m'est
groupe,
déjà arrivé une
et
deux
ça pose
fois.
Pas de problème particulier. Faut arrêter un peu les conneries,
non,
on est d'accord.
Je suis d'accord.
Bon, Ludo s'est même marié avec.
Celle-là, elle était pour toi, il faut que tu répondes tout de suite. Donc voilà.
Non, mais des fois, ils mangent de la biche aussi. Hein.
Et pourquoi je vous parle de Cannibal Holocaust? Parce qu'il s'inspire lui-même d'un film roumain des années 30, Mange tes morts.
Le film est d'ailleurs dédié à Ruggero Deodato, sur Père Ruggero, voilà, sur la fin. Voilà, donc ça m'a fait plaisir. Et ça va vous retrouver nombreux la prochaine fois.
Plaisir de faire plaisir.
Plaisir d'offrir. Joie de recevoir.
Oh. Magnifique. Eh ben, merci Ludo. Je sais pas si ça a motivé ou.
Je trouve ça un peu court.
Non, vous avez. Est-ce que ça vous donne envie de le voir ou pas du tout?
Oui, voilà, c'est ça un peu là.
Bah moi, tu m'as dit, t'as dit, âme sensible, s'abstenir. Oui. S'abstenir.
Ah, moi, j'ai vu.
Alors, dis-lui, oui, t'en as vu un petit bout. Alors, t'en as pensé quoi?
J'ai l'habitude de voir que des petits bouts. Hein. Bah, j'en ai pensé quoi
Oh, t'as pas vu tout. Si, alors, je t'ai pas tout montré.
Au départ, c'est pas forcément ce que je kiffe comme genre, déjà. Et puis, après, oui, c'est très coloré. C'est très, ça fait très Amérique.
Non, mais je veux dire, distingué.
Entre la
critique
la
de cinéma, c'est très coloré.
Qui, à mon avis, en tout plus, ça pour dire qu'il y a beaucoup d'acteurs noirs. Beaucoup plus, enfin, moins graphique. En tout cas, l'image beaucoup moins travaillée et lumineuse que ce qu'on voit dans le film Green Inferno, déjà. Voilà. Voilà.
Elle n'a pas vraiment suivi le film en même temps. Elle est en train de
J'étais en train de faire des gnomes.
T'étais en train de faire des gnomes, mais tu regardais pas vraiment.
Mais si.
Faire
si.
Des gnomes.
Pour les gens qui ne comprennent pas, c'est. Moi, j'ai un truc à eux. Hein.
Moi, j'en connais un qui était scotché dans le fauteuil avec moi.
Le fiston.
Ah bah oui, mais lui, il voulait voir.
Oui, mais par exemple, non, Juliette, elle a pas été emballée plus que ça.
Juliette, en même temps, Juliette, elle a passé les on va dire les.
Ils ont quel âge, tes enfants? Parce qu'il faut
quand même les bons trois quarts du film à pas regarder.
18 et bientôt 17.
Oui, voilà. Donc ils sont déjà quand même assez.
En tout cas, le rythme est vraiment. Je peux vous assurer que vous rentrez dedans, ça vous tient au fauteuil.
Tu parles de Didouille ou du film?
Il a dit quoi? Vous rentrez dedans,
ça vous tient au fauteuil.
Très bien, bah merci Ludo. Hein. Une thématique de Noël assez porteuse. J'hésite à parler tout de suite. Après, ou te laisser la parole?
Je sais pas, moi.
Oh, allez, je te laisse la parole.
Ok.
Starlet. Je trouve que ça va être dans la continuité. Pour l'instant, on trouve un fil conducteur. Donc,
Ça va être chiant aussi.
On va laisser la parole à Starlet pour sa rubrique. Attention, jingle.
Quand je me regarde dans quelque chose, je le fais à
un petit Facebook Live à faire là pour faire le teasing de cet épisode. Parce qu'on l'a pas fait sur la rubrique de Ludo, vous comprenez bien.
Tu te mets dans la glacière avant peut-être.
Tu te mets dans la glacière.
Refroidis-moi tout ça. Là.
Oh là là, elle dit tout ce secret là, c'est.
Je sais pas ce qu'ils nous ont pris. Ça a l'air d'être bien parce que
tout ça m'excite profondément.
C'est parti.
Vas-y Starlet.
Alors. Qui dit fête de fin d'année dit convivialité. Donc j'ai décidé aujourd'hui pour ce test, généreusement, de vous intégrer. On va le tester tous ensemble. Voilà. Nous sommes à une période, comme disait Ludo, une période de l'année où on aime bien s'en mettre plein la panse, où on apprécie particulièrement de partager un bon repas, des mets fins et délicats.
On va écouter des merdes.
Mes chers amis.
On dit muffins.
Ah, des muffins et délicats.
Des mets fins et délicats. Mes chers amis, nous allons vivre ensemble un moment d'exception.
Elle va nous faire un Koh-Lanta, là, je le sens.
Ludo parlait tout à l'heure de don de soi.
Oh non, t'as pas
c'est notre tour.
Des insectes, on va goûter des insectes au chocolat.
Je sais pas, écoute, hop, on va poser ça là.
C'est sûr.
Ah, ouais, des insectes.
Ah non, des vers, c'est ici dans la glacière, c'est des vers.
Ah oui, c'est frais en plus, c'est gluant.
Attends, parce qu'elle a dit don de soi, donc j'ai peur.
Il faut les aimer aussi. Mais connaissez-vous les noms? Alors on va commencer soft.
C'est vivant.
Il y a du molitor. C'est mort et c'est séché. On fait tourner le molitor. Je garde le pire pour la fin. On a aussi le criquet. Il est énorme. Il fait deux phalanges.
Ah, j'adore.
Voilà. On se prend un Koh-Lanta là.
Deux phalanges.
Ah
oh.
Deux phalanges, c'est énorme pour toi.
Ah, ah, le molitor, c'est mignon, c'est un écumin.
Le molitor, je me suis dit, tout le monde peut le faire. Le criquet, franchement.
Si, moi, je suis curieux. Là.
C'est vrai, allez. Go.
Moi, criquets, alors, le molitor. Je n'ai pas de problème avec ça. Mais moi, les criquets.
T'as aucun problème avec ça?
Moi, je peux goûter si tu veux.
C'est vrai, de toute façon, tout le monde va essayer.
Tant que c'est sec, ça fait envie.
Ça me dérange. Ludo, plus dérangé,
le molitor, donc c'est aromatisé à quoi? Ça, c'est la boîte.
Sésame cumin.
Sésame cumin. Et le criquet, c'est curry fruité.
Curry fruité.
Ça donne envie, non?
Ah bah ouais.
Je pense, on se dit qu'on commence par le molitor histoire d'y aller mollo, non?
Bah oui, on y va. Ouais. On y va.
Allez. Une fois que on s'en prend une bonne poignée.
Ah, mais moi, ça m'effraie pas du tout.
C'est vrai, le criquet.
Non,
c'est
presque
fou. Alors, mais vous savez qu'on va devoir y venir à un moment.
Ouais. Hein. Alors, et oui,
c'est
peut-être.
L'avenir,
mais je peux donner mon avis là parce qu'on parle de consommation, machin. Ça, il a fait du transport, celui-là, quand même.
Mais moi, j'ai même pas rien dit, c'est bon. M'agresse pas.
J'ai même pas rien dit.
Mais non.
Oui, pour l'instant, il fait du transport, mais un jour, il y aura des fermes.
Pour profiter pleinement de la saveur du molitor, saisissez une franche pincée.
Ah, moi, j'ai pris un.
Élevé en
Europe. Écoute, c'est pas dégueu, hein, sésame cumin.
C'est très bon.
J'aime bien. Moi.
Voilà. Alors, ça, donc, c'est des petites boîtes apéro qui se vendent à Nature et Découverte.
Ouais, ça a très le goût sésame cumin.
Ouais, mais alors, l'avantage qu'il y a là, c'est que c'est séché.
C'est plus une texture, non?
C'est aromatisé. Donc ça passe bien, franchement, on voit pas trop que c'est un
fait,
ça fait apéro.
En fait, le problème c'est juste visuel.
Et aromatisé.
Le problème n'est que visuel.
Mais même là, ça va encore, c'est pas trop violent.
Si tu fermes les yeux et qu'on te dit, je sais pas, c'est des cacahuètes, eh ben.
Oui.
Tu te diras juste à son préféré.
Par contre, là, on est en train de prendre l'apéro, mais on n'a rien à boire.
C'est vrai, ça. Alors qu'il est presque 18h.
On avait dit qu'on buvait plus, fin émission.
Alors, le criquet, par contre, il est quand même comac. Hein.
Bah, c'est super bon, moi, j'aime bien.
Oui, ouais. C'est bon. Alors là, ouais, curry
en fait,
fruité.
C'est juste des épices, là, pour l'instant, en bouche, t'as rien.
Mais alors, le problème, là, effectivement, en bouche, t'as rien. Mais là, t'as des ailes et tout.
Là, on a une petite.
T'as les yeux, t'as la tête. Hein.
Ouais, mais c'est comme les sardines. Hein.
Ah, c'est comme les crevettes, on mange tout.
J'aime pas les crevettes.
Voilà, je vais passer, j'irai peut-être en dernier. Donc, curry fruité, faites-vous plaisir.
C'est curry fruité, à la mangue.
Non.
La goyave. On dirait des sardines.
Oui, allez, vas-y.
C'est ça, ouais.
Le problème, c'est que le fait que ce soit séché comme ça.
On se rend moins compte.
Ouais.
Ça,
il y a
ça, plus, ça croustille ou pas?
Oui,
j'ai
ça croustille.
J'ai l'impression d'avoir une aile.
Mon Dieu, je m'appelle Timini.
Non, c'est en fait, nom, ça ressemble même pas à un criquet.
Ah, puis t'y vas tranquille, quoi, c'est bien. Ça ressemble quand même à un criquet. Hein. On va mettre une petite photo.
On va prendre un petit alien.
Ouais.
Et puis il te dit bonjour, il te dit oh.
Allez, on respire un grand coup.
Allez, vas-y, ma didouille, t'es plus forte que ça. Ah oh, putain, elle l'a fait. Vas-y, mange. Fais petit pense-pas, y a pas la tête, y a pas les yeux.
Tu veux prendre une photo?
Donc ça.
Non.
Ok, ouais, ça. Bon, je vais y aller aussi.
Ah, vas-y, ouais.
Non, c'est juste ça croustille, tu sais. C'est vrai, on te bande les yeux, tu manges. Oui, tu n'as aucune.
Franchement, c'est super bon.
Hein. Bah ouais.
C'est très mais cool. Moi, je peux goûter peut-être.
Enfin, super bon, j'en fous. Bon.
Je sais pas ce qui est meilleur, la tête ou les ailes ou le cul.
Le cul.
Le croupion.
Moi, franchement, ça me dégoûte. Les ailes. Me regarde un petit peu.
Non, mais fais comme moi, tu souffles.
Mais ouais, j'ai le décapité, regarde.
Ah,
j'ai décapité.
Moi aussi. Mmh. Je me demandais s'il ouvrait la bouche.
Faut que tu manges la tête. Hein.
Ah, vous mangez la tête.
D'accord.
Ah, bah oui.
Il faut finir par la tête.
Mange-le d'un coup, mets-le dans la bouche.
Il est tellement grande gueule que non, si tu voulais me dégoûter.
C'est ça en fait.
Moi je suis verte. Moi j'ai du mal avec les ailes quand même. Je sais pas, ça me. Non
bah, non, ça non, croustille. Bien, moi. Tu vois, à la limite, je préfère le gros criquet qui croustille que le petit truc qui fond comme un essoufflé.
On voudrait des verres.
Oh bah ça fait plaisir. Voilà, pour prochain apéro, j'amène ça. Bon, c'est un peu cher.
C'est vrai, combien
voilà,
c'est vrai.
Alors,
donc, alors la petite boîte là de. C'est Jiminy's.
La... Oh, il y a des pâtes, là.
Oui, ça pique un peu, curry fruité.
Il est mignon.
Je le trouve super mignon.
C'est vrai. Ça coûte 8 euros la boîte apéro.
Ah ouais.
La boîte.
Ah
ouais, 8 euros.
Et là, on est 7. 7, il en reste 4. Hein.
Ouais, et voilà.
On
en a eu un chacun.
Ouais.
Là, pour le criquet, bon, le molitor, il y en a un petit peu plus du coup, comme c'est plus petit.
On sait où passe l'augmentation de l'adhésion.
Voilà. Mais donc, oui, on va sûrement devoir y venir. Donc, il va falloir habituer nos palais. C'est pas trop dans nos coutumes. Peut-être que nos enfants et petits-enfants s'y mettront plus facilement. Mais parce que là, c'est aromatisé. Mais...
Oui,
Il est quand même en train de mourir. Hein,
c'est l'aile.
Non, mais c'est surtout c'est que actuellement, ils sont en train de travailler sur l'aspect. C'est-à-dire qu'ils essayent de garder forcément la matière première et de transformer. De transformer le produit de façon à ce qu'il soit un petit peu plus attractif.
Je sais pas, on doit l'entendre dans les micros, je pense. Donc tu meurs dans un coin là-bas.
Mais tu sais, moi je pense à un truc, c'est tout con. Mais tu mets dans un robot, tu mixes, tu fais une poudre de ça et tu saupoudres sur une salade verte.
Bah exactement.
Et mais c'est très bien. En plus, tu vois, c'est un petit note salé.
Mais ça, les petits molitors là, tu peux les laisser comme ça, mais bon,
finalement,
ça rend pas
verres,
non, mais pour ceux qui
ont vraiment ça
là, c'est très sec. Si tu mets une vinaigrette, j'imagine que ça va le gonfler. Là, pour le coup, la texture, ça risque d'être un peu. Hein.
Gonfler à la vinaigrette,
donc,
ouais.
Donc autant que tu le moulines et que tu l'intègres dans une vinaigrette, et là, t'as tes protéines.
Et Starlet, là, t'as ramené ces deux échantillons, enfin pas échantillons, c'est deux produits. Il y a d'autres, parce que là, il y a des petits verres séchés et puis des grillons, mais est-ce qu'il y a d'autres insectes?
Alors, il y avait aussi des.
Pas des cafards?
Non, là, ça, nature et découverte, il n'y avait pas de cafards. Il y en avait une taille intermédiaire. Je me suis dit, je prends le plus petit et je prends le plus gros, mais je ne sais plus ce que c'était comme insecte. D'accord. Mais sur Internet, tu trouves des trucs très très gros. Hein. Oui, des cafards, qui ne sont pas complètement séchés en plus. Donc,
voilà, c'est ça. Moi, j'aurais plus de mal avec des choses pas séchées ou alors le pire,
encore un peu liquide dedans. Tu croques dedans, puis ça a des
trucs frais, entre guillemets.
Des larves. Des larves
alors, c'est
fraîche,
ni plus ni moins que l'équivalent de certains de nos fruits de mer.
Je vous ai leurré avec la glacière. Vous pensiez à un truc vraiment dégueulasse.
Moi, je m'attendais. J'avais jamais goûté, moi.
C'est avoir la bite de Nico.
J'en mets un de côté pour que.
Mais c'est pas plus dégueulasse que la raclette qu'on a mangée.
J'en mets un de côté. côté pour faire goûter à la famille.
Bah oui, tu peux
tomber un petit verre. Et donc, bah voilà, il y a presque plus de criquet. Ça a eu rencontré un franc succès.
Bah oui,
je te resserre un verre, Freddy.
En fait, c'est vachement impressionnant de le voir, pas la quantité, mais le fait d'être dans ce petit paquet serré et qu'on voit la masse et la forme, ça, c'est impressionnant. Par contre, si tu les mets effectivement comme ça sur une assiette, finalement, c'est beaucoup moins impressionnant à l'idée de le manger que ça paraît, je trouve.
C'est vrai. Et c'est vrai que le fait que ce soit séché, ça aide un petit peu. Oui. Bon, bah voilà, bah écoutez, je suis
content. Eh ben écoute, c'est super de nous avoir fait partager ce test parce que du
super
coup.
Idée, ouais.
Vous auriez peut-être pas testé de vous.
Ah bah
vous auriez testé
non, notre. J'aurais pas votre pensé en fait.
Bah moi j'avais déjà goûté testé, les lombris parce qu'un copain nous en avait ramené de
Californie. Des verres de Paris en fait.
Et voilà.
Est-ce qu'on peut tester un foie gras Rossini la prochaine fois?
Je vais voir ce que je peux faire.
Eh ben merci, Starlet. Ouais, aucun dégoût, on est vraiment. On peut y aller, nous faire The Green Inferno, je pense. Ça y est, on est prêt. On est...
Ça y est, il a vomi.
Par contre, Ludo, ça va mieux?
Il est mourant.
Non, mais ça va, ça vient, ça fait des tout petits rires, ça se chante, ça se danse. C'est comme une chanson populaire, quoi.
Allez, Nico.
Merci, Starlet, pour, ouais,
merci.
Cette,
merci,
pour
Starlet.
Ce test.
Vous me devez chacun 2 euros.
Pas de souci. À mon tour avec une rubrique Les fonds de tiroir.
J'ai un bout d'aile contre les
dents. Et bienvenue parmi nous à nouveau. Alors touche à ton cul. Daco, daco, chabou, tadouti.
Les fonds de tiroir, fonds de tiroir, fonds de tiroir.
Avant que tu commences, je vais essayer le chocobon avec les verres là. Avec
Alors ça c'est parfumé quoi déjà les verres?
Tu crois que ça a marché, cumin chocobon?
Ah je sais pas. Oh, ah il est parti réexpectorer dans les toilettes, dans les water.
Ça apporte du croustillant. Hein. Donc c'est pas terrible.
Tu nous aurais demandé, on t'aurait dit.
On va pas se mentir.
Hein.
On s'attendait pas à autre chose. Bon, je peux y aller?
C'est toi le patron, Nico.
Donc, moi, je voulais vous parler de podcast. Ça faisait longtemps que je n'avais pas présenté, présenté de podcast.
Toi aussi, tu as des marottes.
Exactement. N'est-ce pas? On est tous un peu toqués. Nos petites,
on a tous nos
monomanies. Donc là, c'est la fin d'année. On est tous un petit peu fatigués, tristes, moroses. On a un peu le moral dans les chaussettes. Avant Noël, hein, on verra après Noël, on sera tous forcément guirés. Mais justement, je voulais vous aider à vous préparer pour cette période un peu plus festive en vous présentant des podcasts assez cosy et sur le thème de la détente. Alors le premier que je voulais vous présenter, il s'appelle le Cozy Corner. Justement, le Cozy Corner, donc, c'est présenté par deux animateurs. Moguri et Médoc, donc bien sûr ce sont des pseudos.
Ah ouais.
je sais pas pourquoi je précise, je suis vraiment con.
Enfin un mot juste.
Et donc tous les 15 jours, pendant environ 2 heures, un petit peu plus, ils sortent un épisode, donc ils en sont actuellement à l'épisode 20. Et c'est vraiment mon podcast coup de cœur du moment. Et toute proportion gardée, hein, parce qu'on n'est pas tout à fait dans le même cours, mais je trouve que ça ressemble un petit peu à une version de l'Anthropod, mais à deux animateurs en fait. Et donc, je vais vous présenter l'intro un petit peu du tout premier Cozy Corner dans lequel il se présente.
Bah, salut Médoc.
Ça va, mon gars?
Ça va et toi?
Ouais.
Bah, c'est sympa ici.
Ouais, bah ouais, bienvenue.
Je peux m'asseoir?
Alors oui, mais à une condition.
Ouais.
C'est que tu t'installes de la manière la plus cosy qui soit.
Ok.
Donc voilà, vous voyez un petit peu comment il pose l'ambiance. L'idée, c'est de se mettre vraiment de façon confortable. Cosy finalement, mais cosy qu'est-ce que c'est finalement? Moi j'entends comme quelque chose d'assez convivial, d'assez confortable, etc. Comme on dit.
Ouais, ça veut dire cocooning.
Cocooning, voilà, je pense que chacun a sa propre approche. Et puis bah, donc du coup ils ont un peu présenté eux leur vision du cosy. Donc je vais les laisser présenter parce que c'est quand même leur émission.
C'est vrai, qu'est-ce que c'est le cosy?
C'est quoi le cosy?
Le cosy pour moi, si tu veux, bon, c'est du confort.
Ouais, bien sûr.
Évidemment.
Bien sûr.
Mais c'est pas forcément du confort matériel.
Ouais.
C'est un état d'esprit pour moi,
ouais.
Le cosy. C'est ouais, t'es cosy ou tu l'es pas.
C'est ça.
Et si tu l'es pas et que tu veux le devenir, contrairement à ce qu'on pourrait penser, va peut-être falloir travailler un peu. Ça se travaille, le cosy, tu vois. Ça se maintient.
Être à l'aise.
Être à l'aise en toutes circonstances.
Ouais. Okay.
Maintenant, voilà, après, qu'est-ce qui est cosy, qu'est-ce qui l'est pas. Pour moi, le velours, c'est très cosy.
Le velours, c'est très cosy.
C'est une matière très cosy.
Wow. Moi, je déteste. Il y a quoi d'autre qui est cosy?
Les cabanes qu'on faisait quand on était enfant. Ça, c'est cosy.
Ouais.
Vois.
Okay.
Parce que la nostalgie, c'est un petit peu cosy aussi.
Ouais.
Tu vois, ce genre de, truc.
Ouais. Les tours de cou quand il fait froid.
Les tours de cou quand il fait froid.
Il a fait des films pour nous. Tour de cou.
Sarkozy, Nicolas Sarkozy, paradoxalement,
tu vois,
n'est pas cosy.
Exactement.
Tu vois, donc il y a des pièges.
Et c'est dommage.
C'est dommage.
Quel gâchis.
Quel gâchis.
Voilà, donc un peu, effectivement, leur état d'esprit, c'est que le cosy, c'est un état d'esprit, c'est se sentir confortable en toute situation.
Enfin,
voilà.
C'est aussi une petite nacelle, un petit berceau.
Monsieur et papa de jeunes enfants, chacun a ses critères. Alors donc, les deux animateurs, Médoc et Moguri, ne sont pas du tout des débutants dans les médias.
C'est des pseudos, non ?
Puisqu'ils bossent ensemble depuis 10 ans, ils ont travaillé dans la presse tout d'abord, dans la presse jeux vidéo, puis ils ont travaillé à la télé sur la chaîne No Life. Et puis quand leur aventure sur No Life a pris fin, ils ont décidé de continuer quand même à créer du contenu en s'orientant vers le format podcast qui nécessitait le moins de moyens. C'est pour ça que nous aussi, on s'est lancé là-dedans avec des connaissances.
Sommes toutes limitées comme nous.
Moyenne. Nous, c'était limité, mais eux, justement, ils ont mis à profit leur expérience, notamment leur expérience du matériel, leur expérience du rythme des émissions pour justement faire des émissions qui sont toujours très bien produites avec une qualité sonore et puis un rythme. Effectivement, on sent que c'est travaillé, c'est pas des débutants. Donc moi ce que j'aime bien, c'est on a déjà pu un petit peu l'entendre dans ses premiers, alors pour l'instant je vous ai passé des extraits qui sont très calmes, très posés, etc. C'est pas toujours comme ça, loin de là, mais on a quand même l'impression d'entendre une discussion, une conversation entre deux potes qui sont installés dans un canapé ou qui sont à l'arrière d'un bar dans un petit fauteuil assez
qui
confortable.
Se tripotent
un peu
en même
temps.
Oui,
c'est marrant, je pensais la même chose. Prennent un feu de cheminée, la main négligemment jetée sur la cuisse de l'autre.
Maintenant tu le dis, je vois bien, ouais, une peau de bête avec le feu qui crépite derrière.
Et toi, t'en penses quoi du feu qui crépite?
Dans une cabane, au fond du bois.
Peut-être à poil, l'épagnole négligemment posée sur sa cuisse.
On va leur demander. Mais en général, ils abordent, voilà, ils discutent un petit peu de manière.
Calme-toi, Ludo, on fait un twist après.
Et donc ils abordent divers sujets qui leur parlent et qui leur plaisent, un peu comme nous finalement. Donc la culture pop assez généraliste, sans se prendre la tête. Et
puis
alors on se prend le téton ou on se prend la tête,
c'est ça en fait.
Est-ce qu'il y a une, en fait je dirais que toutes les thématiques qu'ils abordent sont toujours abordées systématiquement sous l'angle cosy, ou c'est juste le packaging, enfin le
cosy, en fait c'est leur leur approche. Donc non, en fait leur approche qu'ils appellent cosy, c'est dans leur cocon à eux deux, c'est-à-dire leurs automatismes, leurs réflexes, leur petite private joke en tant que pote, etc. Donc c'est là-dedans, c'est que eux ils se retrouvent dans leur référence.
Cosy, nous alors. Hein.
Effectivement, oui. Mais c'est pour ça que je trouve que ça, quand on se retrouve, on aime bien se retrouver, on se retrouve dans notre univers,
dans notre bulle.
Exactement. Donc c'est pour ça qu'ils abordent des sujets complètement divers et variés, comme on peut les avoir ici. Donc je vous disais des anecdotes assez pop, etc. Mais avec aussi un peu d'alcool de temps en temps et de temps en temps quelques propos un peu explicites. Donc voilà, tout ça, je vous dis ça.
Ils ont copié quoi.
Et on peut dire ça aussi. Hein. Oui. Et donc les échanges restent très naturels entre les deux animateurs. Ils parlent
ça
de leurs choses de façon.
Oh
putain.
Par contre, toi t'es perturbable.
Non, mais je vais continuer. Si moi ça me dérange pas. Mais si, je suis perdu en fait.
Vas-y mon Nico.
Donc par contre, eux, ils présentent de façon très structurée. Il n'y a personne qui les coupe. Là, c'est un truc, ça me fait rêver. Je pense que c'est pour ça, surtout, que ça me parle. Donc ils commencent leurs émissions avec une rubrique qui est « Quoi de neuf ?», dans laquelle, bah, tout bêtement, ils racontent ce qui leur est arrivé depuis la précédente fois où ils se sont rencontrés. Donc,
toujours
c'est souvent
la moitié de 18. Arnaud, putain.
Donc voilà, ils abordent pas mal de sujets aussi, un peu justement, dans cette rubrique « Quoi de neuf ?», un peu perso et insolite. Notamment du côté de Bordeaux, où il a l'air de se passer des choses assez incroyables, malgré ce qu'on pourrait en penser. Ils ont aussi des questions assez métaphysiques. Franchement, vous allez voir, moi, ça m'a parlé. Je ne sais pas si vous, ça va vous parler, mais...
Ça parle d'un truc, ouais. Je vais te le dire. Bon, tu ne vas pas forcément trouver ça flippant au début.
Sans qu'il y ait un peu d'alcool.
Peut-être que tu vas trouver ça très con, peut-être que tu vas trouver ça un peu crade, je ne sais pas. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé... Est-ce qu'il t'est déjà arrivé, Médoc,
ouais,
d'avoir des petites peluches dans le nombril? T'as des petites peluches dans le nombril.
Ah oui.
Tu sais, tu
ouais, je vois bien.
Grattes, je sais pas.
Je me gratte.
Et puis dans le nombril, t'as une petite peluche.
Petite peluche qui pue. Non, j'en ai pas.
T'en as pas. Bye. Oui, il m'arrive d'en avoir. Ouais. Et c'est quelque chose d'assez courant. Je sais que je connais d'autres gens qui en ont aussi, tout ça.
Ouais.
Mais là, tu vois, récemment, je sais pas pourquoi. Je sens que j'en ai une toute petite.
Vivante en plus, non?
Attends, mais quand même. Quand même, ça vient d'où? Donc, je vais sur Internet. Donc, je vais sur Wikipédia.
peluche de nombril, peluche ombilicale étant le nom scientifique de la peluche de nombril. Il faut savoir que ça touche donc 66% de la population.
Et donc voilà, il nous fait un petit exposé sur la peluche de nombril pour vous dire à quel point, de temps en temps,
c'est très bon.
Ça peut partir
j'adore,
dans tous les sens.
J'adore. J'adore.
Surtout que moi, je suis aussi des peluches dans le nombril.
Mais moi aussi, je suis fait la remarque. Voilà. Voilà. Donc et ça part pendant 10 minutes, un quart d'heure là-dessus. Ouais. Et voilà, ça part.
Voyons autour de la table si.
Des fois, j'ai même des miettes dans le nombril.
66%.
Qui a des peluches dans le nombril?
Ah, moi, je sais pas, je touche pas, c'est une cicatrice, ça me
dégoûte. Moi, le problème, c'est que les miennes sont vivantes.
Tu peux montrer? Mais ça vous arrive aussi d'avoir des peluches au bout du gland aussi.
Et regarde sur Wikipédia.
Devant sa femme et ses enfants. Devant sa femme et ses enfants.
Non, moi, vivante ou pas?
Oh, le mec qui vient de
il dit qu'il a des peluches au bout du gland. Moi, j'allais dire, moi, j'en ai pas beaucoup. J'ai surtout des petites graines. C'est parce que ma femme mange beaucoup de figues. Oh, c'est...
Oh putain! Et on n'a pas bu, c'est ça le pire.
C'était une blague que mon père aimait de vous raconter. Il aimait raconter ce genre de blague. Pas avec ma mère, hein, j'entends bien. Tu as une blague.
Non, c'est voilà.
On comprend non, d'où c'est... ça vient en fait. Et donc, ils ont aussi, de temps en temps, au milieu de l'émission, ils ont un dossier. Donc un sujet un peu plus détaillé, souvent pointu et de niche, qui leur tient à cœur. Donc c'est souvent des l'univers assez geek. Moi c'est par là que je suis venu parce qu'ils viennent de nos lives, j'en ai parlé, jeux vidéo, etc. Mais pas que, des fois ils abordent des sujets sociétaux, de la littérature, de la musique, des jeux vidéo, de la gastronomie, de la BD. Ils ont notamment fait un petit point sur Zai, qu'on connaît très bien ici. Et puis aussi, un sujet culturel qui m'a perturbé, qui m'a marqué, donc je vais le partager avec vous.
Non, j'ai envie de te parler de culture.
Ah.
Et je te parle de la grande culture.
D'accord.
La culture avec un grand C.
Ouais.
Et parce que j'ai réfléchi à un truc récemment.
Ouais.
C'était évident depuis le début, j'avais jamais fait gaffe, mais en fait, ça constitue la plus grande saga familiale.
Ouais.
Française. Et même, je pense, du monde.
Waouh.
Je parle évidemment.
Des rois
du Girardverse. Du Girardverse. C'est-à-dire des séries AB. De la famille Girard. Les rois maudits des années 90.
D'accord. C'est exactement ça.
D'accord.
Parce que quand je te dis plus grande saga familiale de tous les temps, ouais, on parle de quelque chose. Donc le Girardverse, hein, je te parle, ouais, même pas de toutes les séries AB.
D'accord.
Juste... Je parle de ce qui concerne la famille Girard.
La famille Girard, on est d'accord.
Bah, j'ai fait le calcul.
Ouais.
Ça représente 2230 épisodes.
Ouais.
T'es à au moins 40 jours non-stop de programme.
40 jours, pendant 40 jours,
tu veux
te
tout savoir de la famille Girard.
Comment on appelle ça?
Tu peux te binge-watcher, ouais, c'est
binge-watcher.
Ça. Binge-watcher. Ouais, c'est ça, tu peux mater ça.
Donc Girardverse, vous êtes peut-être trop vieux, pas mal.
Non, non, non.
Mais c'est Hélène et les garçons.
Monsieur Girard. Premier baiser.
Je suis trop vieux. Les vacances de l'amour, les mystères de l'amour. Et donc, il nous fait tout un dossier là-dessus.
C'est vrai que c'est. Les vacances de l'amour, il y a toujours.
Mais après, bah c'est ce que j'ai découvert en fait. Salut les musclés, ça a commencé avec Salut les musclés, voilà, qui fait partie de cet univers-là. Enfin voilà.
Avec le gueugue, tout
c'est
ça.
C'est des trucs qui sont complètement. Enfin voilà, c'est des trucs. Ça m'a fait vachement marrer de réécouter ça parce que quand il remet tout en contexte, en perspective, c'est un truc assez hypnotique en fait. C'est incroyable comme truc. Donc voilà, il y a des regarder, sujets plus pointus, mais c'est vrai que c'est marrant de le voir analysé de notre tour. Et ça existe toujours.
Degré, hein.
Avec Justine.
Voilà. Exactement. Et puis, j'ai appris que monsieur Girard avait couché avec Annette à un moment. Enfin, il y a des trucs assez hallucinants. Enfin, quand on apprend ça, c'est les rois maudits des années 90. Et puis ils finissent leur épisode avec le Cozy Culture Club qui représente un petit peu leurs coups de cœur, les recommandations culturelles de leur émission. Et entre les rubriques, ils ont des intermèdes musicaux parce qu'ils sont très mélomanes, notamment Moguri, celui qui parle beaucoup là. J'ai pas pris beaucoup d'extraits avec Médoc, enfin s'il y en a un après, vous allez voir. C'est toujours dans l'esprit assez cozy, donc c'est des musiques assez jazz, chansons françaises, thème de jeux vidéo, rock, type post-rock, etc. Ils sont assez pointus sur la musique. Ils ont des duels de mots complètement absurdes qui me font un peu penser à Pyramide. Tu sais, où on enchaîne des mots et puis il y a que ceux qui connaissent la règle qui comprennent en fait. C'est un petit peu ça et en fait tu la découvres en même temps qu'eux finalement la règle à chaque fois. Ils font des petits sketchs et puis ils ont un truc qui n'est pas du tout radiophonique a priori. C'est la vidéo mystère. Donc Moguri présente une vidéo à son compère Médoc sans rien dire. Et systématiquement, ça fait mouche. C'est-à-dire que l'auditeur et Médoc découvrent en même temps ce qui se passe. Et voilà ce qui se passe quand on est auditeur. Delphine se plaint de son rire de temps en temps. Elle trouve qu'elle a un rire assez... Vous avez déjà commencé à entendre le rire de Médoc, mais vous allez voir.
Et là, je te la mets maintenant.
Ok.
Je te découvre la vidéo.
Il lui met au casque.
Non, il montre la vidéo, en fait.
Ah, d'accord.
Voilà.
Ah, oh, ça c'est bon ça.
Donc,
excellent.
Et je l'ai coupé, hein, parce que c'est, il a vraiment un rire assez. Et à chaque fois, il se fait avoir. Et en plus, il y a un petit jeu entre eux, c'est-à-dire qu'il ne la voit pas venir au début, il savait quand ça arrivait. Et c'est vrai qu'il y a... Et après, il décrit ce qu'il a vu, en fait. Et ça donne forcément envie d'aller voir ce qu'il a vu, parce que sa réaction est systématiquement comme ça. Et c'est vraiment cool. Donc, moi, ce que j'aime bien dans leur esprit, c'est que c'est. Comme l'entrepôt, chacun prépare ses sujets dans son coin sans et puis ils le découvrent ensemble. Ce qui fait qu'il y a une réaction, une spontanéité. Et puis, bah, des fois, ça marche mieux que d'autres, hein, comme toujours. Mais je trouve, moi, ça me plaît vraiment. Je trouve qu'il y a un bon état d'esprit entre les deux. Et on sent qu'ils ont des automatismes qui sont vraiment potes dans la vie.
Mais moi, quand je lis le conducteur, des fois, je me dis « Ah, putain, ça a l'air chiant. » Et pas manqué.
Dans l'émission. Ça l'est vraiment. Pourquoi tu dis « T'es quand même chié de dire ça quand c'est à moi de présenter Jean-Luc Merdin. » Et par contre, ils n'ont jamais d'invité parce que justement, comme on parlait tout à l'heure, ils sont dans leur bulle à tous les deux, c'est leurs automatismes, etc. Et ça casserait un petit peu leur ambiance. Donc, je pense que si vous aimez l'entrepôt, il y a des chances que vous puissiez aimer ce type de programme. Et puis, vous pouvez écouter l'épisode 14 du podcast Podcastorama dans lequel Moguri est interviewé pour présenter le Cozy Corner. Alors, je ne sais pas si ça vous a donné envie d'aller un peu creuser leur sujet. Donc là, c'était le premier, j'en ai un deuxième. Et le deuxième podcast que je voulais vous présenter, alors ça fait longtemps que je voulais vous en parler de ce podcast-là. J'avais jamais trouvé l'angle ou le contexte suffisamment intéressant pour le mettre en avant à sa juste mesure. Et là, je trouve qu'on est suffisamment à l'aise, cosy, détendu pour le présenter. C'est Riviera Détente de Henri Michel. Alors, il n'a pas forcément besoin de moi et de l'entrepôt pour le mettre en avant, mais c'est tellement un incontournable, mon point de vue, que je ne pouvais pas laisser passer l'occasion. Alors bon. Henri va peut-être en vouloir parce qu'il est assez, exclusif. Il aime bien que Riviera Détente soit la seule préoccupation de ses auditeurs. Là, je l'ai mis en parallèle d'un autre podcast, mais j'espère qu'il ne m'en voudra pas. Mais qu'est-ce que Riviera Détente ? Alors, depuis Grasse, c'est la ville de Grasse, que connaît bien Arnaud puisqu'il y va bientôt en vacances, et sa Lambda Cave, la ville accueille le studio d'enregistrement d'Henri et de ses différents intervenants qui ont pour seul objectif de vous détendre les membranes. Donc déjà, ça vous pose un peu le sujet. Vos membranes sont souvent contractées par le rythme de la vie, par le stress, etc. Donc avec ses différents acolytes, il est là pour mettre un petit peu l'ambiance. Pour être tout à fait clair, moi, ce podcast me fait pleurer de rire. Un peu comme quand je regarde une BD de Fab Caro, tu vois, genre le dernier...
Et comme quand Ludo regarde...
Green Inferno.
Ça me détend les membranes.
Donc, le duo originel, c'est Henri Michel et son pote d'enfance Patrick. Moi, c'est l'équipe que je préfère en fait.
C'est un pseudo, non?
je sais pas. Henri, il est souvent également accompagné par son neveu Raphaël ou par d'autres diverses personnes comme Marie ou d'autres personnes qu'il arrive à convaincre de le rejoindre dans son univers. Et moi, ce que j'adore particulièrement chez Henri et notamment aussi chez son pote Patrick, c'est qu'ils gardent leurs âmes d'enfant. C'est-à-dire qu'on a vraiment l'impression d'avoir des ados. Ils ont 40 ans, mais on a l'impression d'avoir des ados avec de l'humour un peu potache, un peu crétin d'ado, hein, pour dire les bonnes choses, mais ce qui me plaît vraiment. Mais c'est jamais méchant, en fait. C'est toujours fait dans un bon esprit, assez bienveillant. Et si je devais résumer un peu leur état d'esprit, c'est deux potes qui disent « Allez, on dit que… » Et puis ils partent sur un délire. Voilà, c'est à peu près comme ça que je vois le truc. Et ils partent sur un délire en impro. Par exemple, « Allez, on dit qu'on se fait peur en recensant les différents mystères de Provence. » Et là, on a toute une émission où ils recensent un petit peu les mystères, les lieux dits, les choses qu'on se passe de bouche en bouche, de génération en génération, sur les dames
de bouche en bouche.
De bouche en bouche, pardon. De bouche en oreille, je m'en fais plaisir.
Moi, je veux qu'on se passe des choses de bouche en bouche.
Je vais passer un mystère.
Hein. Non, il était bon ton mystère. Mais c'est marrant, il a gourou. Tu te tapes. Et donc, par exemple, il y en a un qui me fait vraiment marrer. C'est, allez, tiens. On dit qu'on fait un entretien d'embauche sur de la musique.
Oh, j'adore.
Et donc, je vais vous passer l'entretien d'embauche de Sylvain le comptable.
Tu sais quoi ? C'est le morceau idéal. Moi, si je cherchais un travail en entretien d'embauche, je viens avec un petit transistor. Je le pose, tu vois, ouais. Et je mets le morceau avant que l'entretien commence.
Avanti.
Quoi ? Oui, c'est moi. Bienvenue à votre entretien d'embauche. C'est moi, Sylvain, et je viens comptable et tous les chiffres pour votre embauche. Oui, c'est moi, Sylvain le comptable, l'extraction, les additions, c'est ma revendication. Venez m'embaucher, Sylvain le comptable, les additions, c'est ma grande passion.
Donc ils ont 40 balais, les mecs. Hein.
À toi.
C'est génial, moi.
À toi.
À toi,
c'est chaud.
À toi.
C'est Sylvain le comptable. formation de bons comptables. 2 plus 2 plus 3 plus 7 plus 15. Tout ça, ça me fait pas peur, puisque c'est mes additions. Je suis né là-dedans, je suis né dans la potion. C'est tout de même pas ma faute si je suis fort. Hey, addition.
Donc vous voyez un peu le genre de choses, mais aussi de temps en temps il y a des épisodes un peu plus science-fictionnesques. Voilà, là on part dans des choses très importantes. Puis tiens, on invente une civilisation d'aliens. Alors qu'est-ce que ça peut faire? Tiens, on va inventer la vie sociale des aliens.
Mais on voit jamais d'extraterrestres paresseux. Très ouais. Peu à part c'est dans Star Wars le gros là. Oui.
Des extraterrestres clochards.
Vous avez pas un Kravec ou deux, s'il vous plaît? Pour m'acheter une Grestra, une bouteille de Malto.
L'extraterrestre, il parle français. Les objets particuliers, je...
Pour m'acheter une bonne bouteille de Malto.
Bonjour, messieurs, dames. Je n'ai toujours pas de Krandrick.
Ça me fait trop.
Mais les extraterrestres, vas-y Freddy, oui.
Non, il y a un truc qui me dérangeait au début. J'ai découvert ça vraiment au tout début de l'aventure. Et je dis, mais putain, il y a un truc qui me gêne, ce mec a la voix d'Arthur. L'animateur Arthur.
Ah, c'est vrai, c'est ouais. Ce dire. Mm.
Et puis maintenant, il est plus connu qu'Arthur. Et donc, c'est Arthur qui a la même voix qu'Henri Michel. Ça, et puis une deuxième remarque, j'ai lu et j'ai entendu, je sais plus, peut-être l'émission, ils sont passés à la télé dans un
ouais, magazine. Sur le tube.
Que contrairement à nous, on est très carré sur le,
ça, sur oui.
le conducteur et tout. Et c'est l'impro. C'est quasiment de l'impro. Mm. Quoi.
Ils définissent juste des thèmes en fait.
Ouais.
Et puis après,
mouche à chaque fois, ouais. Juste en partant sur des impros comme ça, ouais. c'est un sacré exercice quand même.
Carrément. C'est clair. Mais faut dire que tous les deux ils fonctionnent bien, ils se connaissent depuis qu'ils ont 17 ans. Donc ils ont leurs blagues, ils savent un peu, ils ont des automatismes aussi.
Enfin, quand même les textes du comptable.
C'est improvisé, hein.
Ah, mais tout est improvisé, c'est ça.
C'est quand même écrit, quand même.
Mais non.
Au début, tu sens bien que c'est pas tellement écrit. Ouais,
ça serait mieux écrit, je pense, si tu l'avais.
Bah oui.
Non, mais ça serait moins spontané.
C'est ça qui est drôle,
aussi. Justement. C'est justement, mais donc les extraterrestres ont une vie sexuelle, mais ils peuvent aussi avoir une vie de couple, enfin une vie sociale, mais ils peuvent aussi avoir une vie sexuelle et une vie de couple, donc. Bah alors, si on inventait la vie sexuelle des extraterrestres,
ah, c'est fou. Et des mâles et des femelles, ça se trouve, il y a 5 sexes différents dans le pays des extraterrestres.
Ah ouais.
Pays des extraterrestres.
Il y a 5 sexes différents.
Mais alors, t'es hétérosexuel quand tu fais l'amour avec un des 4, mais pas le tien.
Ou alors, on considère que t'es avec quelqu'un quand t'es avec 4 personnes.
C'est super dur leur vie. Mais bon, il y a tellement de problèmes avec les extraterrestres qu'à un moment il faut faire un petit résumé. Et donc.
Attends, stop, ça fait 4.
Clapony, moi je suis un clapony.
T'en as fait 5.
On est 5 par famille, moi je suis un clapony et il y a les autres.
Alors t'as dit les phytons, les plutarques, les méandres, les rastos, c'est les claponies. Et les plus méchants, c'est
les clapons.
Avec un aplomb.
En face de toi.
Les méandres, je les voyais un peu...
Non, ils sont un peu filous.
Et les fistons, ils sont
comment? C'est à vous, c'est super raciste. Les femmes, c'est comme ça.
Ouais, mais c'est pas parce qu'il a une copine méandre que...
Donc voilà un petit peu l'esprit. Donc notamment, parce que de temps en temps, Henri, il a quand même envie de donner des conseils aux gens. Et il y en a un qu'on essaye d'appliquer de temps en temps à la maison. Quand on sent qu'il y a un peu de tension, ça doit vous arriver tous dans la maison, une petite tension, faire redescendre la tension dans les couples ou dans la famille. Voilà, un petit conseil pour vous.
Et il y a un truc à faire, que je conseille à faire à tous les Rivieros, que ça embellit et ça a désamorcé toute situation de stress pendant les vacances. C'est que quand t'as la personne d'en face qui est un petit peu énervée, mais pas encore énervée, mais juste avant de t'énerver, tu vois. Tu vas genre, mais tu vas aller chercher deux fois du lait, tu vois. Vraiment, ce moment-là précis. Alors, la nouvelle expression, le truc, c'est oui, et je vais te l'expliquer en chanson. T'en as pris deux bouteilles de vin ? Oui, et je vais te l'expliquer en chanson. J'ai pris deux bouteilles de vin. Tu m'as chanté super longtemps. Et la personne en face t'écoute. Et ce qui est bien, en fait, c'est que c'est une sorte de thérapie de famille, de groupe. C'est que ça te permet, en chantant, de formuler mieux la situation et de désamorcer le stress.
Donc voilà, ça part vraiment dans tous les sens, comme vous pouvez l'entendre. Il y a une thématique en général par épisode et en fonction des invités. Mais globalement, il a quelques rubriques qui sont plus ou moins récurrentes. Notamment, il fait aussi des méditations guidées. Donc là, il invite l'auditeur à se laisser porter. Le carnet loisir de la Côte d'Azur, qui est aussi pas piqué des hannetons, je dirais, à sa sauce. Et puis là aussi, le message du sponsor. Donc le message, l'auberge de la Patchole. Donc voilà, tout le monde le connaît. Enfin, tout le monde ne le connaît pas. Donc voilà, il faut que vous connaissiez un petit peu...
'7, '8, '9, '10, '11, '12, en avant la partouze, à l'auberge de la Patchole, salade et alcool, bien calé au soleil, une vue sans pareil. Regarde bien mes mains, elles sont sur ta copine. Regarde bien tes mains, elles sont sur ta voisine. Vendredi après-midi, sympathisons au terme. Dimanche et samedi, on échange nos germes. C'est parti pour un week-end parfait.
Depuis 1982, l'auberge de la Patchole de Saint-Vallier accueille tous les couples libertins de la région. L'auberge de la Patchole, le rendez-vous de tous les couples libertins de la Côte d'Azur, dans une ambiance festive mais respectueuse. Patrick est un bébé cadome.
J'avais mis dans le texte, j'ai inséré deux phrases. Je vais insérer Patrick est un bébé cadome et Henri Michel est le meilleur.
Voilà, les mecs, voilà les gamins. Quoi. Voilà. Déjà bébé cadome qu'il utilise encore cette phrase. Bon, voilà. Donc, bah, je voulais justement, Freddy l'a déjà un peu dit, mais te remercier parce que c'est toi qui m'as fait découvrir ça il y a quasiment 2 ans maintenant. Tu m'avais envoyé un lien, je m'en souviens, disant tu vas voir, ça c'est sûr, tu vas adorer. Bah, je confirme parce que. Je disais tout à l'heure que le Cozy Corner, c'était mon coup de cœur du moment, mais Riviera Détente, c'est depuis le début. Il n'y a pas un épisode que j'ai dû rater d'ailleurs. Même Starlet, quand tu l'as découvert il n'y a pas très très longtemps, c'était une révélation, tu m'as dit.
Ah
oui, tu ne te rappelles pas Tu m'as dit, je comprends pourquoi. Bah justement, moi ça m'a marqué parce qu'elle dit, je comprends pourquoi les gens aiment nous écouter depuis que j'ai découvert ça en fait, parce que ça crée une proximité avec les auditeurs et les animateurs.
Ils sont des rires communicatifs.
Donc Henri Michel, il est en train de développer aussi une espèce d'écurie, un label qui s'appelle Riviera Ferraille, dans lequel il fait d'autres productions. Et il accueille aussi notamment Nanarland, d'autres podcasts, Le Bureau des Mystères, il fait les siens Riviera. Spoiler arrière, etc. Ref nécessaire qui revisite l'histoire de façon assez particulière avec Clément Androlli. Je vous invite, si vous voulez en savoir plus et avoir une interview d'Henri, d'aller écouter l'épisode 28 du podcast de Rebecca #2050, puisqu'elle est allée dans la lampe d'Akev pour interviewer Henri Michel lors d'un voyage dans le sud.
Il paraît que c'était...
Ils sont allés à l'auberge de la Patchole, je crois.
Il faudrait qu'on se trouve un sponsor aussi, nous.
Oui, ouais. Mais pourquoi pas. Si vous voulez nous sponsoriser.
On n'avait pas commencé avec la Festinière.
La Festinière est pas loin. Ouais. Donc voilà ce que je voulais vous présenter. Donc ces deux podcasts, je ne sais pas si ça vous donnait envie d'aller
les écouter. J'avais vu deux vidéos, moi, de lui. Enfin, j'avais regardé des vidéos de lui. Mais c'était pas forcément... c'était plus documentaire que drôle sur la Côte d'Azur, justement.
Ah bon?
Confond
pas le joueur de foot.
Peut-être sur son blog aussi.
C'était la Coupe du Monde 77 en fait, ou 79.
Je sais pas.
Henri Michel, non?
Ah oui, c'est ça. Il a aussi une chaîne YouTube sur laquelle il fait vidéos en vlog. C'est un peu différent, ouais. C'est un petit peu différent. C'est vrai que je ne l'avais pas précisé.
Moi, j'ai une question, c'est l'habillage musical, parce que c'est assez drôle en fait.
Oui.
Il passe des trucs. Il y a une vraie ambiance derrière ça.
Il crée une atmosphère en fait. Il a une communauté vraiment qui est assez fan. Hein. Les Rivieros, comme il est.
Oui, mais non, je veux dire, mais vraiment sur l'habillage musical, c'est les morceaux qu'ils peuvent trouver qui des fois sonnent très très kitsch. En fait, je ne sais pas où est-ce qu'il les pêche.
Je
ne
sais pas du tout, mais il y a des choses. Il est assez musicien.
Parce que du coup,
Patrick est un prof de musique.
Parce que ça donne une atmosphère très très décalée, très surréaliste. Et ce qui fait que je pense que ça doit, j'imagine, être stimulant dans l'improvisation.
Pour des émissions qui font 1 heure à peu près, je crois, si je dis pas de bêtises, j'ai même pas vérifié. Mais j'en ai réécouté plein cette semaine pour justement essayer de trouver des extraits. Alors j'en ai plein d'autres. Il a fallu que je fasse un choix à un moment. Mais vraiment.
Ça donne envie d'essayer de faire des impros comme ça, de se lancer un thème et puis.
Ça donne envie de faire un podcast cool.
Ouais, c'est vrai. On se marrerait vraiment et nos blagues seraient drôles en fait.
Donc voilà ce que je pouvais vous dire. Et... je sais pas si ça vous a donné envie, ouais, voilà, de,
non, non,
d'aller creuser toi.
Ah, moi, oui, carrément, oui.
J'ai bien aimé la période où il a mis des expressions de la langue française dans le... rappelle-moi, Nicole, tu vois ce que je veux dire?
Ah oui,
tu vois, oui, il a lancé en, deux, en trois disant, expressions.
En disant, oui, que à la fin de chaque phrase, quand tu rajoutes certains mots, ça pouvait transformer une phrase complètement normale en une phrase assez tendancieuse. Oui. Notamment, ou pas du tout d'ailleurs, ou dans le cadre de professionnel, oui, de dire, bon, bah, tu sais ce qu'il te reste à faire. Une, oui, fois qu'on, voilà, t'a dit ça, en fait, voilà. Ou aussi, tu dis n'importe quelle phrase et à la fin, tu fais, si vous voyez ce que je veux dire. Et bah là, à chaque fois, tu la transformes en truc. Je crois que ce soir, on va bien manger, si vous voyez ce que je veux dire.
Et à chaque fois que tu dis cette phrase, t'es obligé de dire.
Et maintenant, tu l'entends. Voilà, dès que quelqu'un me dit ça, c'est vrai que je me dis, qu'est-ce qu'il y a. Donc voilà, c'est que des petites émissions. Enfin, pas des petites émissions, beaucoup d'émissions. Je sais plus à combien il est d'ailleurs, une 30 ou 40, parce que c'est assez régulier aussi.
Comme nous, quoi.
À peu de choses près, mais il en a. Comme il est plus régulier. Ça vient plus vite.
En tout cas, ça donne envie d'écouter.
Eh ben, je suis, yes, ravi de vous, ouais, avoir, ouais, donné envie. Donc,
j'irai en télécharger.
Je rappelle, donc, le Cozy Corner avec Médoc et Moguri et Riviera Détente, présenté par Henri Michel, souvent avec Patrick, mais aussi avec d'autres invités autour de lui.
Et Henri Michel, qui par ailleurs a écrit dans Libé ou sur Slate.
Sur Slate.
Ah oui,
vient de faire un bouquin avec avec cuisine, le chef, ouais, Guillaume Sanchez, qui a fait Top Chef l'année dernière, celui qui était tout tatoué là. Voilà, donc oui, c'est un mec hyper actif qui fait beaucoup de choses, énormément de choses. Et il est assez
spécialisé en pâtisserie, lui.
Oui, ah, c'est ça. Oui, oui, c'est ça.
Qui est Henri Michel.
Tout pire.
Non.
Et d'ailleurs, il l'a connu grâce à Spoiler Arrière, l'un de ses podcasts, qui revenait le lendemain sur l'émission de Top Chef en commentant tout. Enfin voilà, c'était assez marrant.
Il est trop à fond d'ailleurs.
Ah ouais, mais vraiment à fond. Il commentait ça comme un match de foot ou comme. Enfin, c'était assez génial quoi. Voilà, donc c'est un mec qui est très enthousiaste. Il s'enthousiasme vachement vite et c'est très enthousiaste, communicatif en fait.
D'accord.
Donc voilà.
On y a écouté ça.
C'était tout pour moi. Je propose. Est-ce qu'on passe à Arnaud? Oui.
Freddy. Non, c'est pas Arnaud.
Non. Oh, pas Arnaud, pardon. Excusez-moi.
Arnaud, tu vas partir de chez toi.
Je vais sortir.
Bonjour à toutes et à tous, hein, et joyeux Noël à la sympathique équipe de l'Entrepod.
Joyeux Noël.
Bah, pour les poditeurs qui ne me connaissent pas, je me présente, hein, Jean-Robert Frégin, mais tous mes amis m'appellent JR. Bah, dans l'équipe de l'Entrepod, on était impatients que Noël arrive. Hein. L'équipe avait commandé une foule de cadeaux. Hein. Des sujets intéressants, des auditeurs et du talent. Rien que ça. Bon, comme vous venez de l'entendre, il y avait visiblement rupture de stock sur les sujets intéressants. Pour les auditeurs, nous avons reçu un lot invendu d'insomniaques bosniaques. Histoire d'être certain qu'ils ont quelques heures à tuer et ne comprendront rien à ce qui se dit dans l'émission, ce qui en facilite grandement l'écoute. Quant au talent livré par le vieux barbu, il était de très mauvaise qualité. Il a visiblement été fabriqué dans une usine du Bangladesh. Il n'a même pas résisté à deux malheureuses minutes d'émission. Mais tout le monde sait que le Père Noël n'existe pas. Hein. Alors moi, pas bête, j'avais commandé 400 grammes d'inspiration, mais directement sur Amazon. Figurez-vous que quand le paquet est arrivé, il avait été ouvert. Plus rien dedans. Il faudra donc que les derniers courageux poditeurs qui nous écoutent prennent leur courage à deux mains. Hein. Alors, je parle pas de ceux qui continuent envers et contre tout à verser de l'argent sur le Tipeee de l'Entrepod. Une sorte de cagnotte virtuelle grâce à laquelle on peut soutenir financièrement l'émission à coût de milliers d'euros. Ouais. Je devrais peut-être pas en reparler ici, car je prends le risque qu'un auditeur qui ne fait pas régulièrement ses comptes se souvienne qu'il verse tous les mois l'équivalent d'un abonnement à Canal+, et suspende dans la foulée le prélèvement automatique. Sans compter que Tracfin, hein, l'organisme gouvernemental chargé de la lutte contre le blanchiment d'argent et contre le financement du terrorisme, est sur le coup. Après enquête en lien avec la police scientifique consistant en l'écoute des 37 premiers épisodes par les plus grands analystes profilers, pas d'autre motivation selon les autorités que du blanchiment d'argent sale pour expliquer ces versements. Ou des antécédents psychiatriques très marqués des auditeurs concernés qui représentent alors un véritable danger pour la population. Mais bon, quoi qu'il en soit, la petite cagnotte dématérialisée du Tipeee ne donne pas encore le vertige. Hein. Mais en parlant de fortune dématérialisée, quand Marius a entendu qu'on pouvait s'enrichir en investissant dans les bitcoins, Bah, la monnaie virtuelle dont tout le monde parle en ce moment, hein, bah, il s'est mis à la bifle. Hein, c'est cette pratique, cette pratique consistant à gifler sa partenaire avec son sexe. Bah oui, à cause de son anglais approximatif, il avait compris Bitcoin. Bon, en tout cas, certains se sont réjouis trop tôt, constatant que l'Entrepod ne revenait pas à l'antenne en novembre. Ils ont trop vite cru à la disparition du podcast. Il n'en demeure pas moins, et cela fera taire les mauvaises langues, que l'Entrepod a, à l'occasion de cette absence de diffusion, égaler son record d'audience. Champagne, monsieur Nico. Vous êtes officiellement à la tête du podcast le moins écouté de France. Les chiffres nous viennent tout droit de Podcastéo, qui porte bien son nom en l'espèce. Là, comme on est tout au fond du gouffre, c'est comme ça qu'on nous appelle. Eh oh, le podcast, eh oh. Et dire que dans ce contexte, l'Entrepod vient de rater le coup du siècle. Celui qui aurait pu nous faire passer de 12 à plusieurs millions d'auditeurs. Nous devions en effet initialement recevoir Johnny pour ce numéro spécial Noël et Jean d'Ormesson pour la nouvelle année. C'est vraiment pas de chance. Hein. Bah, moralité pour cette émission, on se débrouille sans notre Jojo national et en janvier, Monsieur Nico va devoir convier au déboté Gaïdic Chambrier pour le premier numéro de l'année. Troisième passage de l'homme au vortex. En même temps, son album n'en finit plus de sortir. Hein. Ça va commencer à se voir qui nous sert de bouche-trou. Hein. Ouais, je vais vous faire une confidence à propos de ces deux grandes figures décédées ces dernières semaines. Quand j'ai découvert que mon colis d'inspiration était vide, bah j'ai paniqué. Et en arrivant tout à l'heure, juste avant l'émission, j'ai jeté un œil au cahier de vannes de Monsieur Freddy. Ah, parce qu'il faut savoir que Freddy écrit la moindre ligne de ses dialogues dans l'émission. Hein. Alors j'avais recopié vite fait deux blagues qu'il avait prévu de placer aujourd'hui pour lui griller la politesse. Bah, finalement, pris de remords et surtout assez dubitatif quant à l'effet comique réel de ses saillies, bah, j'ai renoncé à m'en servir. Quoi, vous voulez que je les fasse quand même? Non, bah non, attendez, rendons à César ce qu'appartient à Monsieur Freddy. Hein. Je vais plutôt vous laisser les faire vous-même, mon cher Freddy, hein, je vous en prie.
Didouille, toujours poète dans l'âme, m'a fait une promesse. À Noël, je ferme ma gueule. Pas de cris, pas de bruit, c'est décidé. Je la mets en sourdine. J'endors mes sons.
Oh bah Freddy,
Freddy visiblement très en verbe, en, très en verve, pardon, et en verbe également, avait prévu d'enchaîner ainsi.
Mais je vois que Nico Johnny, mais je vois que Nico Johnny a l'idée même que j'ai pu oser ce jeu de mots.
Oh bah bravo Freddy, oh bah chapeau.
Oh putain, oh c'est une catastrophe.
En tout cas, ça fait marrer.
Il voit plus son texte, il a de la buée.
En tout cas, notre monsieur Nico a été très inspiré par les. Quand je vois Freddy faire Michel Bouvard, ça...
Philippe Bouvard, pardon.
En tout cas, notre monsieur Nico a été très inspiré par les funérailles de notre monument national Johnny. Il a d'ores et déjà couché sur le papier ses dernières volontés en la matière. Ah, j'ai eu accès au testament, bah ça promet. Hein. Monsieur Nico a prévu de mettre une GoPro à l'intérieur de son cercueil pour animer en direct live, pardon, en direct die, le premier numéro de son journal de bord d'un changement de vie à trépas. Alors pour ce premier numéro, il recevra justement Johnny en direct de l'au-delà. Alors Johnny, qu'est-ce qui t'a décidé à l'époque à opérer ce changement de monde? Ah, monsieur Nico, toujours une caméra à la main, même dans les moments les plus incongrus. Hein. Une sorte de Claude Lelouch à l'enterrement de Johnny, justement. Bah d'ailleurs, ses collègues de l'espace de coworking, la cantine numérique près de Rouen, amusés de le voir en permanence caméra au point, le surnomment désormais Claude le Chelou. En tout cas, du fond de son cercueil, Nico ne manquera pas, j'en suis sûr, de nous marteler son traditionnel conseil de fin d'émission. Alors, mourez, crevez, claquez, calanchez, trépassez, mais surtout, n'hésitez pas, décédez. Pour l'enterrement de Johnny, Maxime Nucci, Mathieu Chédid, Yarol Poupeau étaient aux côtés de la star pour son dernier voyage. Monsieur Nico a dû quant à lui s'adapter et envisager de faire avec ce qu'il aura sous la main. Toujours dans son optique 100% bio et développement durable jusque dans l'au-delà, il souhaite investir dans un cercueil en bambou. Ainsi comme les grands guitaristes précités jouant devant le cercueil de Johnny pour lui rendre un ultime hommage, il souhaite que notre Marius, batteur émérite, se serve du cercueil comme d'une grosse caisse. Pendant que Madame Starlet, au comble de l'émotion, chantera de sa plus belle voix. Pardonnez-moi Starlet, j'ai oublié de vous prévenir.
Il tape sur des bambous et c'est numéro 1. À Cléon, on est fou quand on est forain.
Puis après cet hommage à la Madeleine de Prout, le corps de Monsieur Nico sera inhumé en grande pompe à Saint-Barth-Simpson. Bon, quelle émotion. Bon, pour tout ça, il faudra quand même patienter jusqu'aux 113 ans de Nico. Hein. Eh oui, il a une espérance de vie proportionnelle à la durée d'un épisode de l'Anthropode. D'ailleurs, on parlait de Marius, mais ses funérailles s'annoncent également grandioses. 2073. 500 caravanes descendent le boulevard Jean-Jacques Bourdin à Cléon pour fêter le départ du roi de la baguette. Bon, Marius avait lui-même commandé sur Internet la plaque mortuaire. Un peu étourdi, comme à l'habitude, il reposera jusqu'à la fin de ses jours dans une tombe portant l'inscription suivante « Celui qui aimait à taquiner les braguettes ». Bonne nouvelle. Ah, finalement, ça n'est même pas pour 2073. Monsieur Marius ne sera pas à l'heure au rendez-vous de sa propre mort. À n'en pas douter, il posera un lapin à la grande faucheuse, car il oubliera qu'il avait un marché. À propos, Nico, nous parlions tout à l'heure de Podcastéo. Eh ben, même si je sais que vous avez refusé d'assurer la promotion croisée avec d'autres podcasts pour d'obscures raisons déontologiques, moi j'ai pour ma part lâchement accepté la somme rondelette qu'il me proposait et vais mettre en lumière un podcasteur. Et oui, après Johnny Star, Johnny Vegas, Johnny Mirador, Johnny Cadillac, voici Johnny Anthropode, le sosie podcastique de Johnny. Comme le vrai Johnny, il a appelé sa fille Jade et Joy, mais pour d'autres raisons. Elle porte le nom de deux prostituées thaïlandaises avec lesquelles il avait passé la meilleure nuit de sa vie. Johnny Anthropode a adapté les chansons de Johnny en courts épisodes de podcast d'une minute chacun, au cours duquel il fait découvrir à ses auditeurs la véritable origine des meilleures punchlines de Johnny. Par exemple, cette chanson qu'il a écrite après le fait divers de John Bobbitt. Vous vous souvenez, hein, cet homme dont la femme Lorena avait tranché les attributs au cœur de la nuit. Et il raconte comment, dans le premier épisode, il raconte comment John Bobbitt rejoindra sexe à la main le centre hospitalier le plus proche et comment, bravant le froid au creux de sa paume, il porte son pénis entier. Et cette chanson, à propos d'un type qui empêche Freddy et Christophe de sortir d'une pièce en s'agrippant à eux après une discussion de 2 heures entre nos deux chroniqueurs à propos de leur sélection de meilleurs albums de tous les temps. Un ami de l'importun lui ordonne de les empêcher de sortir et il demande de tout faire pour que les deux chroniqueurs restent. Retiens l'ennui, le supplie-t-il. Et Johnny Anthropode vient tout juste d'achever la mise en ligne de l'épisode où Monsieur Lulu prie Dieu de lui donner la force d'honorer sa femme ivre-morte. Découragé qu'il est par l'odeur de vomi qui flotte dans l'air et humidifie légèrement les cheveux de sa dulcinée. À genoux devant elle, il joint ses mains et lève les yeux au ciel, récitant comme un mantra « Qu'on me donne l'envie d'avoir envie », réfrénant par ailleurs un profond désir d'allumer le feu à l'aide du bidon d'essence qu'il tient entre ses mains. Bah, monsieur Nico, vous voyez, finalement, il y a d'autres podcasteurs talentueux dont les travaux méritent d'être mis en avant. Merci, Podcastéo. Avant de nous quitter, je reviendrai une dernière fois, puisque c'est dans la thématique du jour sur la magie de Noël. Monsieur Arnaud a souvent du mal à dormir. Et encore plus après l'enregistrement de l'Anthropode, tant il n'assume pas la piètre qualité du podcast et redoute à chaque fois l'idée même qu'elle soit diffusée. Il a toujours le secret espoir que M. Nico efface accidentellement l'enregistrement. En manque de sommeil, il a donc commandé au Père Noël Dream, le casque bandeau d'Hugo Mercier. Vous n'avez pas entendu parler de ce type, un start-upper français qui est censé faciliter le sommeil grâce aux neurosciences en diffusant certains sons particuliers. Biofeedback, neuromodulation, oui, tu parles. Neurotechnologie, mon fondement, oui. Un essai aura suffi à M. Arnaud à comprendre le truc. Ce bandeau diffuse en fait en boucle des émissions de l'Anthropode. Ce qui, c'est scientifique, plonge 98% de la population dans un profond sommeil en moins de 10 minutes. À condition, bien évidemment, de couper au montage les interventions de Mme Didouille, qui en réveille tout aussi scientifiquement 100%. D'ailleurs, toi, poditeur, qui nous écoute à bord de ton véhicule alors que tu pars réveillonné et sens tes paupières s'alourdir imperceptiblement, mais coupe immédiatement cette radio. Heureusement que l'Anthropode reste une émission confidentielle. Sinon, l'assoupissement qu'elle provoque au volant serait l'une des premières causes de mortalité routière. Regardez ce qui est arrivé à cette malheureuse chauffeuse de bus au passage d'un niveau de Mias. Oh, que voulez-vous, là, la pauvre femme? Elle écoutait une énième chronique de Christophe à propos d'un livre de Donatarte et Vlaka s'endort au mauvais endroit, au mauvais moment. Faudrait pas que ça se sache. Monsieur Nico serait très mal. De l'huile dans les rouages, oui. Du sang sur les rails surtout. Et un peu sur les mains. Oh, laissez tomber. On dira que c'est la faute de la SNCF. Ça vaut mieux pour tout le monde. Bon, pour ce qui est de la magie de Noël, je pense que là, on a eu notre dose. Toujours est-il que mieux que tous les cadeaux que nous aurions pu souhaiter, l'Anthropode sera présent au printemps à Rennes pour participer à PodRennes, une convention autour du podcast, du chouchen et de la galette bretonne. Et comme le dit notre ami le Père Noël, même s'il ne faut pas vendre la peau de Rennes avant de l'avoir tué, cette nouvelle année s'annonce plutôt bien. Merci de votre attention, joyeux Noël et bonne année à tous.
Bonne année. Noël.
Eh bien, merci JR. Et là, une petite changement de plateau. On va laisser la place à Freddy. On va inverser les rôles. T'es prêt?
Mets-toi à ma place.
Tu viens là?
On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles.
J'ai toujours rêvé. Vous êtes prêts, on y va?
Yes.
Oui.
Non mais comment? Mais vous ne me reconnaissez pas.
Oh, hein. Et ça, c'est Freddy, ça.
Nous sommes tous ici sous le choc de l'émotion. Comment? Et ben après ça, croyez-moi, je sens mieux.
Ah oh.
C'était un peu fort, c'est ça?
Ah ouais, ça va, tout va, tout
ah, moi,
va bien.
Moi, j'en vois.
T'en vois la purée, toi, hein, les séparteils.
Moi, ça me fait tout drôle, là, je suis à la place de Nico.
T'en peux plus, là.
C'est un peu comme le chef.
Alors, je vous propose aujourd'hui un petit mix de mes deux chroniques, enfin, entre le quiz...
Un mix de mes deux.
Ah bah, dis ça,
il va falloir qu'on devine.
C'est à la fois un quiz et c'est à la fois la chronique habituelle. C'est un mix des deux. Alors... Il y a des points, il y a un cadeau à gagner. Non, il n'y a pas de cadeau à gagner.
Il n'y a pas de cadeau à gagner.
Mais il y a la gloire quand même, c'est de bien, gagner.
Moi, j'ai déjà gagné mon cadeau, moi. Merci, Freddy.
Je t'en prie.
Je peux te dire quand même ce qu'on m'a offert.
Ah, vas-y, vas-y.
Alors, Freddy m'a offert. Freddy avait parlé à la dernière émission de. Comment on appelle ça? D'une collection qui s'appelle Discogonie, qui est aux éditions Densité, c'est bien ça. Et il avait évoqué notamment le livre qui était sur Radiohead et sur le making of de OK Computer. Et bien là, Freddy a eu la gentillesse de m'offrir le livre qui a été fait par Philippe Gonin sur The Cure et l'album Pornographie. Et moi, j'en suis super
l'album
content.
L'album préféré.
Merci.
De Ludo.
En tout cas, de Cure, ouais.
C'est pour l'amitié.
Merci Freddy. Ce livre.
Avec grand plaisir.
Je ferai très bon usage de ce livre.
Avec grand plaisir.
Tu vas le lire, quoi.
Peut-être il fera d'autres choses avec. On ne sait pas.
Oui, tu sais pas.
Ça s'appelle pornographie.
Ça s'appelle pornographie.
Alors, je vous explique. Les règles vont être assez simples. Enfin, je vais quand même bien les expliquer pour vous.
T'as raison.
Il y a besoin d'expliquer quand c'est simple pour nous.
Voilà, c'est ça. Alors, c'est un quiz en deux parties.
Une partie musique
et une partie cinéma. Et les deux fonctionnent un peu de la même manière. C'est que, ça n'aura échappé à personne, l'an prochain, on est en 2018.
Wow.
Et les films et les albums...
Freddy, premier sur l'actu.
Ouais. Vous l'aurez entendu ici en premier. L'année prochaine, nous sommes en 2018. Les films et les albums que je vais vous présenter sont des films et des albums qui auront 20 ans l'année prochaine.
Oh, wow.
On va prendre un coup de vieux, là, vous allez voir.
98, alors.
Exactement. On ne peut rien te cacher. Alors, je vous propose de commencer avec le...
Quoi, il est bon en maths, merde.
Merci, Maddy, du heureusement que t'es là, toi.
Je suis Ludo, le comptable. C'est quand même pas ma faute si je suis bon en addition.
Parce que 1 plus 1.
Plus 3, plus 4, plus 5.
Non, mais il est bon, écoute. La petite règle est simple. Je vous passe un morceau qui est sorti en 98. Vous me donnez le nom de l'artiste ou du groupe.
Oh, right.
C'est ce qu'on appelle un blind test.
Oh, il est pointu, ton blind test?
Non, il est grand public.
D'accord.
Pour que tout le monde
il a mis à notre niveau, quoi.
Voilà. Tu noteras les points sur un petit...
Ça y est, l'autre, il est chef.
Mais dépêche-toi.
Samantha Fox.
On y va?
98.
Ça sent super bon. Hein.
Grave.
Peut-être rester manger, moi.
C'est parti. Le nom d'artiste du groupe, hein, je vous rappelle.
98, attends, j'ai ça.
Fatboy Slim. Putain.
Le point
pour
Arnaud.
Foiré.
Bah lui, il va gagner tout. Hein.
Le titre, Arnaud, tu te souviens?
Non, ça va pas me revenir.
Praise You. Et le nom de l'album?
Et en plus, je viens de le rechoper la... à la.
Et le nom de la grand-père, le nom de la grand-mère de l'artiste, s'il te plaît.
Je connais même pas.
C'est moi non plus,
c'est vrai.
C'est celui où il y a la photo du.
C'est You've Come a Long Way, Baby.
C'est qui?
Fatboy Slim. Un type qui, sauf erreur, appartenait aux House Martins. Avant d'être Fatboy Slim,
en fait.
Il essaie de me piéger.
Tu le mets plus fort là, lui.
Ah, pardon, je vais baisser un petit peu. Bravo Arnaud, c'est un point pour toi. Morceau suivant, tout le monde est prêt?
Et oui, yes. Vas-y.
Dans un autre style, de la même année, 98, c'est parti.
Dallas, ton hiver impitoyable.
Chut, tais-toi.
Ah, Lauryn Hill.
Lauryn Hill,
The Misericord of Lauryn Hill.
Tout à fait. Un album. Alors, elle a sorti.
J'ai écouté à peu près 5500 fois cet album.
Putain, j'ai écouté génial. À peu près, je crois, à peu près 0 fois.
Ah,
cet
j'adore
album.
Cet album.
Il y en a un peu pour tous les goûts quand même.
C'est bien. Alors, ça sent super bon. Putain, la vache, ça sent bon ici.
Elle n'a sorti que 2 albums en tout.
Ah, je sais pas, c'est celui-là.
À cette époque et un dernièrement.
D'accord.
J'ignorais complètement.
Ah ouais.
Ça venait après les Fugees.
Oui.
Oui.
D'accord. Oui, il me semble. Hein.
Oui.
Il semble bien. Le point pour Starlet.
Bien joué.
Ça là, j'ai fait un. Allez, morceau suivant. C'est parti. C'est assez simple là aussi, pourvu qu'on connaisse et qu'on écoute.
Mais oui.
98, pff, je sais plus ce que je faisais, c'était pas
pour ça. Je sais où j'étais, c'est pour, je sais quelle année pas. C'était, donc je...
Ça, ça passe marcher, pas. Ça va marcher.
98, on se mariait, Didouille. John Travolta, les Bee Gees.
Chut. C'est parti.
Oui. Oui.
Gorillaz.
Non, Massive Attack.
Ah,
Massive
Attack.
C'est un point pour Nico. Angel, effectivement. De quel album, 98?
Mezzanine, non?
Oui, Mezzanine. Grand disque, encore aujourd'hui.
20 ans, oui, c'est vrai que oui.
Attention à ton portable quand même.
Hein, ah non, mais je...
Ça pourrait te plaire, ça.
Mais ils sont passés à Paris, là, il n'y a pas longtemps.
Mais genre en 98, j'écoutais sans doute autre chose.
Non, ça dit rien que ça hein
si, non, je parlais pas de...
Pas du tout.
Non, je parlais de Gorillaz. Hop. C'était Clint Eastwood, Gorillaz.
Oui. On y va, morceau suivant. Il y a combien 1-1-1-0-0-0.
Ouais, hein. Ça va. Ouais.
C'est parti.
Coolio.
Non.
Les démons de minuit. Image.
C'est toi, on n'entend pas la musique.
Attends, tu rigoles, je joue. Oh si, je connais ça, putain.
C'est hyper connu.
Bah oui, carrément. Et la minette, elle va chanter derrière.
Portiched.
Non. Non. Morkeba.
Non.
Golf rap.
Non. C'est français, monsieur.
Ah oui.
Mais oui, putain!
Mais oui, attends.
Les poditeurs ont trouvé, évidemment.
Gna gna gna.
Les poditeurs sont bons.
Jean-Louis Murat.
Non.
C'est une fille qui chante.
Non.
C'est un garçon?
Un chien, peut-être?
Un demi-point pour Didouille, allez.
J'avance le morceau, peut-être que...
R.
Morien.
R.
Ah
oui. Bien vu Arnaud, c'est
R. Va, il a avancé le morceau, t'étais pas plus hein, au début. Oh là là.
Le nom du morceau, tu le connais?
Non.
Bah non.
C'est La Femme d'Argent. Et c'est sur l'album Moon Safari, qui est le premier, gros,
premier...
Gros succès de R. Hop. Attention, la succès international.
Et ça, c'est qui ça?
Tu connaissais Christophe ou pas?
Pas du tout.
Oh, mince.
J'ai l'impression d'être sur une autre planète là.
98. Avec les aliens ou pas?
98, je devais être sur Mars.
Les méandres.
Ah oui, c'est Manu Chao.
Eh ben oui, oui, c'est Manu Chao, évidemment.
On a bouffé du Manu Chao.
Putain, mais j'écoutais pas du tout ça.
Moi non plus, non. Pas du tout.
Non,
mais on
n'écoutait
pas l'album, mais il n'est pas les morceaux qui sont les plus connus non plus.
Bah oui, monsieur, c'est facile.
Bah oui.
Non, mais c'est pas grave, c'est pas grave. C'est juste pas ce que j'écoutais, mais c'est pas grave.
Je suis comme toi.
Mais c'est pas grave.
Et vous allez vous rattraper sur le cinéma par ici.
Le cinéma 1930.
Nico, le nom du morceau? Elle vient de le dire.
Clandestino?
La mentira. Enfin, j'ai pas écouté ça depuis à peu près 20 ans, je pense.
Ah, puis moi, côté musique du tiers-monde, c'est pas trop mon truc en fait.
La mentira.
Oh, quel accent, frère.
Oh, ouais, ouais. Je parle l'allemand, deuxième langue. Morceau suivant, ça vient. Hein.
T'as pas un truc avec Rammstein, non?
C'est parti.
Richard Lederman.
Je l'ai entendu.
NTM.
Putain,
NTM.
Ouais.
Ah oui, c'est
ouais,
ça.
Ouais,
j'ai
ouais.
Ce morceau
For
aussi,
My People.
Là, ouais.
That's My People.
Ah oui.
C'est le titre. 98 donc.
J'en attends un que tu dois avoir forcément. Je pense 98.
Mais foot.
Il m'en reste 4, 5, 6. 5, ah. 6.
Je pense qu'il est le temps de s'obliger.
Fais ça.
Foot.
Pas mieux.
Tu habitais la planète Vulvor.
Planète Vulvor.
J'ai écouté un peu IAM au tout début, mais c'était.
C'est pas pareil.
Ouais, c'est plutôt 93.
On y va, ce morceau suivant. C'est parti.
Trio.
Trio.
Trio. C'est Nico qui l'a dit en premier.
Non, mais vous écoutiez vraiment de la merde.
Là, j'ai pas sélectionné selon mes goûts.
Je suis contente de l'entendre dire.
C'est pour dire, c'est pour c'est dire du reggae, hein, Christophe. Hein.
C'est pour dire
hein,
quelque chose pour
reggae,
justifier
chanson française.
Mon...
Trio. Compétence totale.
Trio du reggae.
Premier album, oui, il était carrément reggae. Hein.
Il était bien cet album-là.
Trio, ça, aussi trio, ça pourrait te parler.
Ça s'est un peu vieilli, par contre, dans les propos.
Et non, c'est pas.
La mode du Sarouel, elle quand part de là.
Et du djembé.
C'est pas plutôt mangez-moi, ça. Mangez-moi, c'est Billy the Kick.
C'est avant 98.
J'aimais bien cet album-là de Trio, il était sympa, je l'écoutais beaucoup.
Mama Goubida.
Ouais.
C'est un live, ce morceau.
Des klaxons.
Allez, morceau suivant.
Il était live,
c'est parti.
Placebo.
Eh oui, bien vu. Quel album en 98?
Je le sais.
Without You, I'm Nothing.
Ouais, c'est
bien
ça.
Vu. Oh, vous allez bien ensemble.
J'aime pas Placebo.
Et ce morceau,
j'adorais ce, alors que moi, cet ouais, album.
Cet album était très bon.
Better
Cold Soul, celui-là.
C'est Pure Morning.
Ah yes.
Quoi que celle-ci, elle est pas mal.
Les deux premiers albums de Placebo sont excellents.
Il a vraiment une signature vocale, lui. Hein. C'est un
ah, je veux bien musicalement aussi. Oui, j'aimais bien cet album-là, il était vraiment bien.
Après, et ce clip,
c'est cet album-là, vraiment.
Le clip où il marche sur une façade d'immeuble à la perpendiculaire.
C'est lequel, quand même,
Ghost.
Comment ça
je suis plus de mon
Allez, alors là, je sens que c'est une réponse du fond de la table. Approche-toi quand même du micro, des fois que.
Christophe sera malentendu.
Donc ça veut dire que c'est Nico.
J'y crois plus là.
C'est parti.
The Kombucha. Putain, c'est qui ça? Putain, c'est ouais, c'est System of a Down.
Ouais, ouais, il le chante, mais c'est pas qui ça.
Le nom ne venait plus.
The Kombucha.
Putain, le nom ne vient plus.
C'est un morceau plus connu, ça.
Bah, elle est dit que non. Sugar.
C'est le morceau. C'est un morceau de l'album. Tom, System of a Down.
C'est Roulette.
98.
Donc.
Non, c'est Sugar. Ah oui.
Sugar, il dit ouais, Russian Roulette à un moment, oui.
On y va. L'avant-dernier morceau de l'année 98. Tube, un tube interplanétaire. C'est parti.
Daft Punk.
Non,
c'est... Jamiroquai.
Non,
merde. Putain. Ah, putain.
Kenki Yu.
Non.
Jamiroquai.
Non. J'adore.
Ouais, mais c'est du rap et tout, non?
Il y a un peu de rap là-dedans.
Beastie Boys.
Ah, bien joué.
Intergalactic.
Ah, moi,
putain, quand même.
Il nous a tous crevés là.
L'album?
Bah, c'est License to Ill ou c'est celui non. d'après?
Ouais, celui d'après.
Je sais plus comment il s'appelle, Intergalactic.
Hello Nasty.
Hello Nasty.
Nico nous a pulvérisé.
Il vous a explosé. Il vous a explosé. C'était bien,
il
Beastie Boys,
c'était pas ça.
Il reste une chanson.
Parce que je vais bien Beastie Boys aussi.
Laisse un peu parce que c'est bien.
Elle a envie de pisser,
en fait, c'est parce que j'ai. C'est parti.
Il n'y aura pas eu celle que
j'ai. Yves Duteil.
Maxime Cabrel.
Maxime Le Forestier.
Florent Pagny.
Grégoire Le Marchand.
Patrick Bruel.
C'est pas du tout ça. Renaud.
Oh,
Daran et les chaises. Je sais tout. Les innocents. Bah, allez.
Il y a un petit piège, c'est pas 20 ans, mais 25 Hawaii. Ans.
Ah bah alors.
93.
Bravo. Ah.
Quel talent.
R.O.M.
Ouais, ah bah. R.O.M.
Putain, il m'a éclaté.
C'est l'album Automatic for the People. Avec un collector 25e anniversaire qui est sorti.
Mais dis donc, c'est complètement hors sujet.
C'est vrai, je l'arrête parce que.
Moi, je pensais que t'allais nous sortir du Louise Attack.
Ça doit pas être 98.
Ah bon?
Non, c'est 95 ou 97, je pense.
97, ils ont sorti un 20 ans, justement.
Ah bon, c'est pas 95?
Oui.
Est-ce que tout le monde est prêt? Est-ce qu'on peut passer à la deuxième partie du quiz?
Oh, yes.
Un quiz un petit peu particulier, sur le même modèle, c'est-à-dire que je vais vous passer soit des extraits, soit une bande-annonce, soit une musique de film.
Oh, c'est rigolo.
Le but du jeu pour vous étant de me donner le titre du film.
D'accord.
Est-ce que tout le monde a compris? Didou, est-ce que tu peux me redonner les règles?
Alors, le principe est simple. Tu vas soit... passer une bande-annonce, soit une musique du film, et on doit découvrir, annoncer le titre.
On a compris, c'est bon.
Ça peut même être en VO, alors attention, c'est pas toujours facile.
Ça, c'est pour Ludo.
Et je vous conseille de bien écouter.
Oh, bah, tu parles, c'est meurt.
On y va pour le premier? C'est assez fort?
Non.
Pas très fort, non.
C'est là?
Non, dans l'autre sens.
Truman Show.
Oui,
évidemment, il prend tout, lui.
C'est comme ça le début.
C'est comme ça le début en VO où on revoit le.
Non, mais ça,
le fait qu'il soit filmé depuis le début, depuis la naissance.
Yes. Ouais.
On y va.
Allons-y.
Hop, numéro 2, c'est parti. Vous avez là la musique du film avec la scène, la première scène.
Ils sont dans les prairies.
Non. Mais écoutez bien, ça peut vous donner une ambiance. Tout le monde connaît.
Le dernier des mots.
Godzilla?
Non, je pense que tout le monde a vu le film. Je prends peut-être un risque en disant ça.
C'est un truc de guerre.
Putain. Pas Pearl Harbor, mais.
Forrest Gump?
Non.
Soldat Ryan?
Mais alors, c'est pas. Ouais.
Soldat Ryan?
Ouais, il faut sauver le soldat Ryan. Alors, c'était pas idiot, l'un et l'autre. parce qu'il y avait Tom Hanks et parce que tu as dit
Pearl Harbor, mais c'était
plus tard. Sinon, moi, quand je dis film de guerre, c'est idiot, quoi.
Mais non, t'étais sur la bonne voie aussi.
Donc, on l'avait bien tous vu, non?
Oui.
Non, maintenant, je peux pas regarder ça.
Mais par contre,
mais je me souvenais pas du thème. Mais par contre, tu vois, j'avais pas ça en tête.
Mais par contre, c'est loin.
J'ai pas revu, en fait.
C'est 20 ans, c'est 80.
20 ans, 98, putain.
Attention, une comédie, ça va fuser parce que vous allez reconnaître tout de suite. C'est tellement évident.
Mars Attack.
Nico va nous dire les dialogues en même temps. Oh.
La cité de la peur.
Windsworld.
Non.
La tour Eiffel.
Le tour Montparnasse infernal. Ouais.
346 422 exactement.
Le dîner de con.
Le dîner de con, je l'accorde à Nico.
Bravo. Ça commence par la tour Eiffel en plus.
Oui, putain, c'est les allumettes. La tour Eiffel en allumettes. Ah putain. C'est plus facile là déjà, je trouve.
Je voulais l'étudier un peu.
On l'écoute un peu, c'est tellement drôle.
Il paraît qu'il est fabuleux.
Allez, bonne soirée. Tâchez d'être brillant.
Le temps ne fait rien à l'affaire.
Un dîner de con. Vous ne connaissez peut-être pas le principe. Chaque invité amène un con.
Oui, il est là. Il a une belle tête de vainqueur. Les 20 ans qu'on soit grand-père, quand on est con. Il s'appelle Juste Leblanc.
Ah bon, il n'a pas de prénom.
Je viens de vous le dire, Juste Leblanc. Leblanc, c'est son nom et c'est juste son prénom.
Allez, on passe au suivant. C'est une musique de film.
Oh oui, je connais ça.
La vie est belle.
La vie est belle.
Bravo, Arnaud.
Super, Arnaud. Là, on reconnaît plus.
Ah oui,
ça m'a fait chier. Ah oui.
Tous chialer devant
magnifique
la vie est belle.
Ces films.
Pas évident, là où tu l'as. Au moment où tu l'as
reconnu,
j'ai
jamais trouvé.
Il y a du haut niveau. Allez, le suivant. Alors là, c'est très dur parce que c'est une scène en VO. Je vous conseille de bien écouter.
C'est pour Ludo.
Essayez d'avoir l'ambiance.
The Big Lebowski.
Oh, joli.
Dès le bowling, je l'avais.
Ça m'énerve.
Une scène en VO avec un... Une scène en VO avec juste la boule qui te fait tomber les quilles et t'as trouvé.
Comme il l'a vu, je pense, 150 fois.
En plus, on l'a revu récemment.
Mais comment t'as percuté là-dessus?
C'est lui qui a percuté, mais j'avais percuté aussi.
Le bruit du bowling.
Le bowling.
Attends, les gars, là,
mais non, mais un film de bowling à cette époque-là...
Oui, c'est vrai.
Il regarde beaucoup les films de boules.
Il sait qu'il a bu des russes blancs.
Attention, c'est une musique.
Oh putain, ça, je connais.
Vous connaissez tous le groupe
Trainspot?
Non.
Titanic?
Non.
C'est un truc de guerre aussi, ça.
Un groupe qui fait le Hellfest, parfois. Aussi étonnant que ça puisse paraître.
Mais c'est un film.
C'est un film qu'on cherche.
Aerosmith. Oui. Avec c'est Armageddon.
Armageddon. Le point d'idée.
Bien joué.
Bien joué.
Ouais.
Ouais.
C'est Liv Tyler. Sa fille qui joue dedans.
Qu'est-ce qu'elle est belle. Bravo. J'étais très amoureux de Liv Tyler quand j'étais plus jeune.
Elle est drôle de tête.
Ouais. Ah non, elle était jolie quand elle était jeune, super. Mais là, c'est sur la...
Moi, je préférais Bruce Willis. Sur la...
Bruce Willis, ça va être grave.
Sur la, la pub Guerlain ou je sais plus quel parfumeur...
Non, mais je suis restée sur Bruce Willis.
Bravo, chapeau, fais la paix, ça.
Ouais, ouais, bravo, ouais, carrément. J'ai pleuré aussi.
Je vous laisse le refrain.
Aerosmith.
On peut danser un slow, hein.
J'ai même pas vu.
Je ne veux plus me tenir.
Tu n'as pas vu Armageddon?
Non.
Moi non plus.
Ah. Il faut se faire une soirée Armageddon, les gars. Ouais.
Allez, point trop d'info.
Ça se roule des pelles avant le grand départ.
Ah ouais.
C'est sous le soleil, il y a des étoiles filantes. Enfin, ils sont dans, pas sous le soleil.
Sous le soleil, il y a des étoiles filantes.
Extrait suivant. Extrait suivant. Soyez attentifs, vous allez trouver assez rapidement pour certains.
Passe par-dessus les défenses. Peut-être bien que c'est le coup de fil que vous attendez depuis si longtemps, monsieur. Ouh. Voici.
Ça en VF, donc.
James Bond. Oui.
Non.
Tiens, non. Oui.
Batman.
Les indestructibles.
Bon. Non. Ça pénalise ceux qui regardent la VO, général, évidemment. Ils ont envie que je...
Cars 2. Cars.
Non.
C'est un dessin animé.
Non.
Austin Powers.
Je vais y aller à Las Vegas tout de suite.
Las Vegas Parano.
Une saturation dans les casques. C'est Las Vegas Parano. Ouais, ouais. Je donne le point à Didou et Nico qui l'ont dit en même temps.
Ah non, moi j'ai dit Ocean Eleven.
Moi j'ai dit Las Vegas Parano. Enfin, c'était tous les deux.
Allez, non, donc c'est
Las Vegas Parano.
Ah putain, j'aurais dû pas être honnête.
Moi aussi, je pensais que tu l'avais dit.
En fait, elle a couvert ma voix.
Oui, c'est ça.
Ouais, mais je suis honnête, moi.
Bravo, messieurs. On y va. Morceau suivant, c'est un générique. Vous allez là aussi reconnaître facilement.
Forrest Gump ?
Non. Marie à tout prix.
Marie à tout prix.
Oh,
joli.
Bravo.
Je pars. Alors, soit tu la trouves vite, soit tu trouves pas.
Hein. Ouais. Oh,
20 ans, ça ?
20 ans, 98.
Putain.
Cameron Diaz, Ben Stiller. Il y a tellement.
Je ne me rappelle même plus du générique en fait.
Il y a toutes les chansons qui émaillent le film. En fait,
ouais. Mais tu vois, je ne
vais pas parler plus que ça. La bande son.
Bah, c'est une VF.
En fait. En plus, moi à l'époque, je l'avais vu en version tchèque sous-titrée en hongrois.
Pour une petite information. Le guitariste qu'on voit chanter à plusieurs reprises dans le film, c'est Jonathan Richman, qui est venu jouer à Rouen à la MJC Rive Gauche, à L'Oreille qui traîne.
Ah, c'est joué là il y a 15 jours.
Très improbable. Non, c'était il y a quelques années, l'association Avis de Passage qui l'avait programmé. Bravo.
Enfin, pour le coup, celle-ci, on les connaît plutôt en VO.
En VO ou en VO?
En VO, je crois.
Ah ouais, j'aurais pas reconnu en VO.
Non, j'aurais pas reconnu de toute façon. Même en français, là.
Une musique de film pour le prochain long métrage que nous cherchons.
Sleepy Hollow.
Non, pas bête.
Bien joué quand même, ouais. Bien joué.
Tigre et dragon.
Non.
C'est un film américain.
Oui.
Kill Bill.
Non, ça, je connais ça. Putain.
Putain, c'est. Oui.
Il y a DiCaprio là-dedans.
Mais oui, c'est un truc. Antonio Banderas.
Il y a Antonio Banderas.
Zorro. Oh merde, chier.
Désolé.
Plus exactement.
Le masque de Zorro.
Le masque de Zorro. Non, le point Arnaud.
J'ai pas un demi-point là.
Ah si, on pourra lui donner un demi-point.
Il n'y a pas DiCaprio là-dedans.
Antonio Banderas, j'ai dit. Non, pas du tout.
On pourra lui donner un demi-point.
Ouais, parce que
le jeu, c'est de trouver le titre du film. D'accord. Elle t'a fait une passe décisive.
C'est vrai.
Non, mais je crois qu'en fait, on m'entend pas.
Oui, il a dit le masque de Zorro. C'est vrai.
Mais oui. Non, mais c'est pas grave en fait. J'ai dit Zorro et le masque de Zorro, mais en fait, c'est pas. Mais on l'a fait en maison. Hein, mais
c'est... D'accord. Mais et bah, c'est pas un mi-point, c'est un tiers de
points. Si, je peux avoir un dixième de points.
Allez, suivant. Attention,
ça demande pas grand chose.
Pas grand chose, j'ai pas tué. J'ai
pas un ou deux craspecs.
C'est en anglais la chanson.
Pour m'acheter des
Klavka.
C'est parti. Hein.
Chutez-vous, bordel.
C'est un peu plus difficile, peut-être. Christophe, respire du micro, on sait jamais.
La ligne verte.
Evita.
Non.
Ah. Non. Donc ça aurait
don't
pu.
Don't cry for me, Argentina.
C'est pas la ligne verte.
Non. Ah, Christophe se rapproche du micro, attention à vous.
Je vais dire une connerie. Non, vas-y,
c'est
dis-la.
Sean Connery, c'est bien ça.
La couleur pourpre.
Non.
Les rivières.
Non.
Australia.
Si c'est les deux PD dans la montagne.
Non.
Jurassic Park 2 ou 3?
Non.
Attends. Est-ce que c'est un blockbuster?
Non.
Africa. Enfin,
non.
Africa.
Non. Non.
Est-ce que c'est un film qui a un gros succès?
Ah oui, ça a eu un gros succès.
C'est une romance?
Oui.
C'est pas
Titanic. Je suis pas sûr que tout le monde l'ait vu, mais c'est un
Bodyguard.
Avec un acteur hyper connu dedans.
La chanson, je
un titre que tout le monde connaît, un film que tout le monde connaît, tu sais?
Avec Brad Pitt.
Ouais.
Au milieu coule une rivière.
Non.
Non. 7 ans au Tibet.
Non. Non.
Kunlun.
Non.
Les 7 péchés capitaux.
Babel.
Furry.
Non.
L'âme qui murmurait à l'oreille du.
Non. Du micro, c'est toi.
Il vieillit quand il naît, il est tout vieux.
Benjamin Button.
Victoria par devant, par derrière.
Il vieillit quand il naît. Où les deux pédés dans la montagne.
Ah, je suis content de citer.
On va le trouver.
C'est pas monsieur et madame Smith, ça c'est sûr.
Non.
Ah, rendez-vous avec Joe Black.
Eh oui.
Ah,
Rencontre
avec Joe Black, pardon.
Oui. Ah, on a un point entier.
Si vous pouviez donner juste un dixième, ce serait sympa.
Tout le monde l'a vu ou pas?
Non, je ne l'ai pas vu.
Non, pas du tout.
Non.
Ah, je vous conseille, c'est un beau film.
Non, je l'ai pas vu.
Non, c'était pas toi. C'était pas toi.
Non, je l'ai pas vu, je t'assure. Je t'assure.
Je confonds quand il vieillit, quand il naît.
Par contre, si on l'a vu ensemble.
Attention, je vais vous passer une bande-annonce. Écoutez bien les bruitages, c'est ça qui va vous donner la réponse.
Donc c'est un film de guerre.
Titanic. Ah non. Bah non, pas possible, c'est pas avant.
97, Titanic. Non.
Blair Witch.
Attends. Non. Attends, t'as dit.
Rec.
Non. Non.
Le siècle. The Ring. Squim. The Ring. Squim. Yes. Oh, putain, je me rappelle. Bravo. Je me rappelle joué, où j'étais quand j'ai vu ce film. C'était
moi, j'ai un frisson avant de voir la bande-annonce.
Tu sais que le téléphone, il a sonné à la fin. Oh, hey, j'ai pas décroché, je te jure, j'ai pas décroché.
Bravo. C'était l'adaptation ou l'original?
Non,
là.
Ça, c'est l'original. D'accord. C'est 98, c'est le japonais.
Horrible.
Ouais. Ah, ça me fout.
Bien joué.
De revoir, quoi. Chapeau. J'arrête parce que. Beaucoup plus léger. Pas moins facile en tout cas. Pas plus facile.
Hello, monsieur Lombardo.
Qu'est-ce qu'un crime sexuel?
Je me demandais si vous pouviez.
American Beauty?
La crime.
Et viol par un flirt.
La crime, le truc
sex
avec.
Crime.
Sex crime.
Ah, ouais.
Sex crime, mais oui.
Ah, avec Denise Richards.
Avec Denise Richards.
Ouais.
Avec Denise
Matt
Richards.
Dillon, non, c'est ça, ouais.
Ouais, exact. Ça, oui, c'était complètement. Oui, oui.
Denise Richards, quoi.
Denise Richards, à l'époque, c'était son premier film. Enfin, premier film où j'avais vu.
Non, elle était dans Starship Troopers.
D'abord.
En fait, je l'ai dit, mais j'ai pas l'accent.
Non, je t'ai dit Ocean, il est
la crime.
C'est parti.
Ah, c'est ça, t'as raison.
La musique,
c'est pas la question, mais c'est pas grave.
Sélection officielle, Festival de Venise 98. Un indice.
Le grand blanc, je suis sûr.
Non.
C'est un film français?
Non.
Ah, vous avez fait un indien dans la ville.
Ah, Christophe.
Ah, ça, je connais ça.
Ah,
laissez,
Babe.
Laissez.
C'est une comédie.
Snatch.
C'est une comédie.
Ah, Snatch, c'est formidable.
Non, c'est pas.
Ça, c'est du gazouel.
C'est un monsieur comme.
Je sais ce qu'il faut faire et je vais le faire.
Un film génial, vraiment.
Bah, demande-toi, excuse-moi, mais.
C'est pas français, t'as dit?
Non.
Émir Kusturica, chat noir, chat blanc.
Chat noir, chat blanc, ah ouais. Bravo Arnaud. Il est bien ou pas?
Je ne l'ai vu qu'une fois à l'époque et sincèrement, j'en ai pas de grands souvenirs.
Je déteste Émir Kusturica, donc je ne veux absolument pas donner de réponse sur lui. C'est pour ça que j'ai boycotté volontairement le.
Et Brad Pitt et Denise Richards.
Mais si je peux avoir un dixième de point quand même.
Chat noir, chat blanc. Non, vraiment, c'est un grand film. Avant-dernier film, ça va gicler parce que c'est très facile.
Ça va gicler.
Tout le monde
est là. C'est un beau poissonnage.
Les visiteurs. Deux.
Une petite série d'extraits que je vais vous laisser s'arrêter parce que.
C'est quand même une bonne grosse bouse, hein, si je peux me permettre.
Avec Freddy, c'est un peu notre Madeleine de Proust.
Ah oui, je comprends alors. Est-ce que...
La boîte à troubadour a flambé.
Didouille.
Arrête de te moucher, c'est pénible.
Il se fait plaisir, hein, regarde.
Allez, j'arrête, c'est un plaisir alors. Personnel.
L'analyse, ça va, 5 minutes.
Je lance le dernier, je vous demande de ne pas répondre puisque nous.
Plus jamais des leçons de morale sur The Green Inferno et tous les autres films, plus jamais.
Je vous demande de ne pas répondre, mais de laisser répondre nos poditeurs puisque cet extrait va permettre à nos poditeurs de gagner 2 places de cinéma.
Il nous reste 2 places à gagner pour l'Omnia.
Allez, je le passe, mais vous ne répondez pas. Tout de suite.
Alors, les petits PD, ça va? On se prend pour Schumacher? On fait des petits tours de piste, ça se passe bien? C'est quoi vos petits bolides là? C'est des Mercedes. Oh là là. Ils font des voitures aussi. Dis-moi, il sait jouer au lièvre l'allemand? Il sait pas jouer au lièvre? Ben, je vais lui apprendre. Passe-moi 55.
Eh bien, merci les amis d'avoir joué.
Oh, ouais,
merci Yannick, c'était très sympa.
C'était très bien.
Bon, Christophe, qu'est-ce que t'en penses?
Je pense que je devais pas être né en 98.
Ça va être ça. Ouais, t'étais déjà ça. Vieux.
Sans doute.
Comme
ou pas né.
Et j'ai gagné ou pas là?
Pas du tout.
Ah non,
mais
Nicolas,
pas mal.
Nico,
j'ai eu plein de points, j'en ai au moins 5, non?
3.
Non.
Pas mis le dernier. Si, enfin 3.
Non, bah, parce que t'as pas mis le dernier déjà.
3.
Mais non, je suis désolée, j'ai eu plus de bonnes réponses que ça.
Non, 3. Ça paraît beaucoup, mais ça faisait pas beaucoup par rapport à toi.
Tu rigoles.
T'as eu un taux de déchets assez important dans ton
réponse. C'est pas vrai, je pense que vous êtes ligués contre
moi. Je vous donne le résultat final. Alors on part de la fin.
Mais non, mais c'est pas assez truqué, c'est pipé.
Christophe, Christophe 0. Des Didouille, donc 2 points.
Ah oui, 2, c'est vrai.
Ensuite, nous avons
deux
Ludo, 3 points seulement.
Bah oui.
Qu'est-ce qui s'est passé?
Bah, petite faiblesse.
3 points virgule.
Tu sais, à un moment, t'étais là, tu étais dedans, et puis je sais pas, bah, peut-être l'appréhension, peut-être le stress, quelque chose.
Alors t'es quand même à égalité avec Starlette.
Non,
points.
Moi j'avais 5 points.
Arnaud 7 points. Et Nico, 12 points.
Oh, papa, ah, ouais, papa, oui. Papa.
Eh ben,
ouais. Bien joué.
Non, génération de trentenaires à la
écoute,
con.
Écoute, Starlette, oui. Relative des choses.
En 12 doublon
points.
Aussi.
Comme par hasard, c'est celui qui écrit les scores qui a 12 points.
Eh bien, je vous propose de passer à nos coups de cœur avant que Ludo s'endorme. Tiens, qu'est-ce qui veut commencer pour les coups de cœur?
Vous vous souvenez
et là,
pas.
Et là, tout le monde regarde dans son micro, personne ne veut parler. Didouille, on va commencer par toi. Tu es prête?
Oui.
C'est parti.
Alors, je voulais parler de la compagnie Sparks qui est en résidence actuellement dans la vallée de Landelle et qui va intervenir auprès des écoles, auprès de toutes les associations de Landelle, car figurez-vous qu'ils nous donnent rendez-vous au château de Saint-Crépin le 19 juin pour présenter leur nouveau spectacle où ils vont essayer de faire collaborer le plus possible d'écoles et le plus possible d'associations rurales, en l'occurrence, sur le thème, je vous le donne en mille.
Émile.
Et non, ils se sont inspirés de Zaï 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 Zaï, et c'est génial.
Ah, d'accord. Et Spark, donc, c'est une compagnie de théâtre, non?
Alors, c'est un collectif, il y a des compositeurs, des chanteurs, et des danseurs et des comédiens.
D'accord. Ah
bah, écoute, mais je vous en reparlerai parce que c'est génial.
En tout cas, ça donne envie.
Mais c'est surtout qu'en 60 secondes, il faut que ce soit accrocheur, mais j'y reviendrai d'ailleurs. Voilà.
Écoute, merci Didouille. Christophe.
Yes.
À ton tour, c'est parti.
Donc, moi, je voulais vous parler du deuxième album de Forever Pavot, intitulé La Pantoufle. Je vous l'avais présenté déjà ici en 2014. Donc, c'est toujours une superbe surprise de retrouver Émile Sornin, de son vrai nom. Il nous plonge dans un univers toujours cinématographique, de type bande originale de films des années 60, 66, 60, 70, pardon, qui s'écoute comme si on regardait un film, en fait. C'est une sorte d'ovni, un peu loufoque, fantaisiste, avec un côté absurde, second degré. Et musicalement, bah, forcément, c'est inspirant Gainsbourg-esque, on va dire, mais pas que. Voilà, à écouter.
Merci Christophe. Ludo, à ton tour.
Oui, moi je veux parler de, voilà, reparler de film, The Raid 2, Bérandal, en fait, qui est la suite directe du film The Raid, le Raid dont j'avais déjà parlé quelques temps ici, et vraiment qui est une suite qui, de mon point de vue, surpasse de très loin l'original, puisque là où le premier film commence à se passer dans un univers complètement confiné et clos, celui d'un immeuble, là ça ouvre vraiment au film de gangsters et de yakuza et donc de gang, et c'est incroyable ce film, la patate de ce film. Pour mémoire, c'est l'histoire d'un flic qui s'infiltre donc dans des gangs et pour éliminer les caïds locaux, et ça met en valeur un art martial qui s'appelle le pencaksilat, qui est un art martial indonésien, et les scènes sont juste mais hallucinantes. C'est un film d'une puissance incroyable. Et alors, le film dure 2h30. Alors, on pourrait se dire 2h30 de type qui se castagne, c'est lourd. Pas du tout, en fait. On est complètement attrapé. Il y a une alternance de scènes très contemplatives et de scènes d'action hyper violentes. Je vous le conseille à fond.
Freddy, tu es prêt?
Je suis prêt.
C'est parti.
Alors, moi, je vais vous parler d'un documentaire qu'on peut trouver actuellement sur Netflix qui s'appelle Jim and Andy. Je vous lis le pitch en 2 secondes. À travers le prisme de son inoubliable performance dans le rôle d'Andy Kaufman, Jim Carrey s'interroge sur le sens de la vie, la réalité, son identité et sa carrière. Alors c'est formidable, le fil rouge c'est un peu c'est le tournage du film de Milos Forman, Man on the Moon, en 99. Un film sur la vie d'Andy Kaufman, incarné par Jim Carrey à l'écran. On peut d'ailleurs entendre en fond le titre éponyme de REM. On y retrouve le comédien canadien d'aujourd'hui, rongé par le doute et la dépression, évoquant le rôle et la part de lui-même qui est sans doute restée sur le tournage.
Et puis, à bien y regarder, Jim Carrey a poussé des expériences cinématographiques très loin quand on repense à ses rôles doubles, Man on the Moon, donc, où il est Andy, mais aussi l'affreux Tony Clifton, mais aussi The Mask, où il est le banquier le jour, héros masqué la nuit, Food Irene, où il joue à la fois le bon et le méchant, ou encore The Majestic, dans lequel il interprète le rôle d'un homme sans savoir s'il est vraiment lui. Des expériences qui ont laissé des traces chez un Jim Carrey que l'on sait maintenant souffrant depuis longtemps.
Merci Freddy.
Oh, c'est référence.
C'est parti Arnaud. Donc je voulais vous parler du troisième album solo d'Orelsan qui est sorti fin octobre. Juste moi c'est un album que j'ai écouté là déjà je pense une quarantaine de fois minimum. Dont je suis voilà que je trouve absolument génial, c'est de la chanson française, voilà, rap ou pas on s'en fout finalement, avec pas mal de collaborations dessus.
C'est un très bon et
c'est
auteur.
Voilà, c'est très bien écrit et vraiment chouette, et je te conseille par rapport à ce dont tu nous parlais tout à l'heure pour ton auteur, le titre Défaite de famille, parce qu'on est exactement dans l'esprit que tu décrivais et c'est il se retrouve finalement à asséner l'ensemble de sa famille ce qu'il pense vraiment. C'est une chanson mais c'est très drôle. Et là, c'est un titre avec en featuring Stromae. Je connais que le bruit de la pluie, l'odeur du béton mouillé. Si je suis parti, c'est parce que j'avais peur de rouiller. Trempé, j'aurais jamais pensé que le mauvais temps finirait par me manquer. Il fait quand même beau, il fait beau, il fait beau, il fait beau chez moi. Merci.
Il a...
À ton tour, tu es prête, Starlet? C'est parti.
Mon coup de cœur va à un roman de Joël Dicker paru en 2012, La vérité sur l'affaire Harry Kébert. C'est l'histoire d'un jeune romancier new-yorkais, Marcus Goldman, qui va chercher l'inspiration pour son prochain roman en se réfugiant dans la petite ville d'Aurora chez un ancien prof de fac devenu son meilleur ami, Harry Kébert. Tout bascule lorsqu'on retrouve le cadavre de Nola Kellergan, une jeune fille disparue 30 ans auparavant dans le jardin d'Harry Kébert, qui se trouve accusée d'un crime qu'il nie avoir commis. Marcus Goldman va dès lors commencer sa propre enquête pour tenter d'innocenter son ami. L'intrigue est drôlement bien ficelée, elle est ponctuée de nombreux rebondissements. J'ai été en haleine jusqu'à la dernière page. Le seul bémol, selon moi, serait la mièvrerie de l'histoire d'amour qui y est dépeinte. L'auteur a beau nous dire que c'est la plus belle histoire d'amour qui n'ait jamais existé, on n'y croit pas un instant. Les dialogues entre les amoureux sont vides et désuets. Bref, c'est dommage que ça n'ait pas été plus creusé, car ça jure drôlement avec l'intensité de l'intrigue. Qui m'a plu, sinon.
Et ben on va finir avec moi-même. Tant qu'à faire.
Sans transition.
Sans transition. Je m'occupe, c'est moi qui me débrouille avec le montage, alors c'est bon.
Dis donc. Il y a de la rébellion. Je vais te l'expliquer en chanson.
Oui, je vais te l'expliquer en chanson.
On peut te le dire gentiment, mais on te fait remarquer.
Et on peut dire bonjour, il y a un auditeur qui est là, il va dire un grand bonjour à l'entrepode, c'est l'occasion.
Bonjour.
Bonjour auditeur.
Bonjour. Bonjour entrepode.
Ça va fait quoi d'être ici?
Bah écoute, l'impression d'être chez des copains.
En même temps, t'es un peu chez un copain là, parce que. Ça fait pareil, nous.
Bon, et donc, il y a des gens qui t'énervent et tu veux l'expliquer en chanson?
C'est exactement ça.
Il faudra écouter l'épisode.
Voilà. Voilà. Fidèle à sa réputation, l'entrepôt a une personne dans son public.
Salut Mathieu.
Et donc, c'est parti pour moi. Alors, il y avait beaucoup de coups de cœur que j'aurais pu vous présenter aujourd'hui. Donc, la Nintendo Switch avec Mario Odyssey, ou l'arrivée du jeu Worms ou Rocket League sur cette console, ou le dernier album de Mastodon que j'écoute assez en boucle. La série Star Trek Discovery qui a été une belle surprise pour moi, ou encore mieux, sa parodie The Orville. Mais j'ai plutôt vous présenter un groupe espagnol, The Electric Alley, qui est mon expérience coup de cœur depuis quelques jours, puisque j'ai eu le plaisir de faire leur première partie la semaine dernière. C'est du hard rock bluesy aux influences assez vintage, Led Zeppelin, Guns N' Roses, Aerosmith, qu'on a pu écouter tout à l'heure. Et donc, je vous laisse écouter Get Electrified. Mais voilà, on arrive à la fin de cette émission, les amis.
Il était temps.
Il était temps, hein, c'est parce que bon.
Noël, ça va, mais ça va deux minutes, quoi.
Il fait nuit, on va rentrer, j'en ai marre.
Il est 19h41, on va prendre l'apéro.
Et donc, bah, On espère que vous, vous avez passé un bon moment en notre compagnie. En tout cas, nous, on a passé un super moment. N'hésitez pas à nous le faire savoir, ça fait toujours, toujours plaisir.
Plaisir.
Pour ça, vous pouvez nous contacter sur les réseaux sociaux, sur le site entrepod.fr, par mail, en laissant des commentaires, le mail podcast@entrepod.fr. Laissez-nous des commentaires sur iTunes si vous le souhaitez, directement sur SoundCloud. En fait, vous n'avez que l'embarras du choix et ne faites pas les timides, on ne mord pas, il n'y a pas de problème. Vous retrouvez tout ce dont on a parlé dans l'article de cette émission qui sera sur notre site. Le site a d'ailleurs repris un tout petit peu d'activité là en décembre avec une visite en vidéo de l'atelier d'un illustrateur Jean-Marie Minguez que j'ai eu la chance de rencontrer. Puis un article également sur des podcasts, on va dire que c'est ma marotte en ce moment, effectivement. Je me suis remis à écouter beaucoup de podcasts. On se retrouve bientôt, on se retrouve le mois prochain, enfin à la fin du mois prochain,
on
en janvier.
On se retrouve l'année prochaine, du
l'année prochaine, bien sûr. Oh.
Ça dépend les gens qui nous écoutent là.
Si vous nous écoutez en janvier,
2018,
on se retrouve bientôt.
On se retrouve cette année.
Et ça sera un épisode encore une fois délocalisé, normalement, puisque ce sont nos prochains invités qui nous accueillent. Donc on n'en dit pas forcément plus pour l'instant, mais...
J'espère qu'il y aura de la bouffe et du à boire.
J'espère qu'on va être accueillis dignement.
Et d'ici là, est-ce qu'il y a des endroits où on peut vous retrouver, messieurs, dames, autour de la table, d'ici à notre prochain épisode, Christophe ?
Nulle part.
Nulle part ? Ok, super.
Même pas un réveillon comme d'hab, ou...
Une Didouille, est-ce qu'il y a un endroit où on peut te retrouver ? Sur les réseaux sociaux, dans la vraie vie
Non, pas forcément, mais sinon, joyeux Noël à tous, bonne année, et profitez bien de Noël. Et moi, je dis, c'est super Noël.
Très bien.
C'est beau.
Oh, regarde, Ludo. Joyeux Noël. La. J'adore Noël.
Qu'as-tu à répondre à ça, Ludo? C'est à ton tour.
On peut me retrouver à jususmicrodonnées.com, donc comme d'habitude, hein, tout nouveau internaute qui voudrait s'inscrire sur la newsletter est le bienvenu, puisque pour l'instant, il n'y en a aucun. Donc,
voilà. Mais sinon, rien d'autre.
Pas non, pas d'actualité pour le moment. Il va y en avoir une très très forte très très bientôt. J'attends juste qu'elle vienne à moi.
Ok, enfer. Freddy.
Ben moi, vous pouvez me retrouver bientôt chez Arnaud, parce que je trouve qu'on est bien accueillis. Je vais sûrement revenir.
Voilà. Arnaud, ben moi, vous pouvez t'as me pas retrouver. Un théâtre, un truc, hein, quelque chose ?
Non, le théâtre, c'est très bien passé. Ça s'est très bien passé.
C'est bien. Hein.
L'année prochaine, il y aura sûrement plein de choses, mais voilà. Non, vous pouvez certainement bientôt me retrouver dans Freddy, apparemment.
Starlet.
Je veux rien de spécial.
Non, on est tous en fin de parcours.
On est surtout bientôt en vacances, on va en profiter.
Ah ouais, et voilà.
Donc
bien,
pour se détendre, Riviera détente, Cozy Corner, n'hésitez pas. Et puis moi, c'est pareil, vous pouvez m'entrer sur YouTube, vous savez, Arnaud, là, très bien,
on s'en fout en même temps.
Refaire l'article. Que... Oui. Ok, bah écoutez, c'est le moment de se quitter. Donc continuez d'écouter des podcasts. Je vais rebondir sur ce qu'a dit Arnaud tout à l'heure. Si vous voulez en découvrir et vous aider à faire un choix, n'hésitez pas à aller jeter un œil au calendrier de l'Avent de Podcastéo, qui en a mis un en place dernièrement. C'est vrai qu'on ne participe pas forcément à certaines de leurs opérations, mais là, ils ont eu la gentillesse de nous accueillir dans le calendrier de l'Avent. Donc, on a mis un petit extrait, représentatif ou pas, vous nous le dire si vous l'avez écouté. En tout cas, comme l'a dit Freddy, on n'est pas payé cher, mais on rigole bien. Freddy, oui.
Oui, et puis n'hésitez pas à parler d'entrepôt autour de vous. Un bon bouche à bouche, ça fait jamais.
Tout à fait. Je suis très susceptible, ça m'énerve.
Oui, on va t'expliquer en chanson.
Eh ben, on vous dit bonne fête de fin d'année et le mot de la fin.
On crie pas. Hein.
Allez.
Bisous. Il a le goût de guimauve.
Ah oh, moi je le trouve formidable.
Qu'est-ce qu'il y a goût de guimauve?
Vous parlez de moi.
Ça. J'aime pas le miel à la châtaigne, il n'y a pas d'autre miel.
Mais tu l'as déjà fait tout à l'heure. Je crois
qu'il le pense.
Personne n'a
entendu. J'adore. En fait, moi, j'essaie de faire un truc basé sur le comique de répétition, mais c'est pas.
Mais il faudrait que ce soit comique avant d'être. En parlant de ça, tout à l'heure, mon fils. Je vais faire mon Ludo.
Comment j'ai suivi ton fils se cacher?
C'est quoi sa blague? Combien tu monteras?
Je crois que j'ai pas le choix.
C'est les deux gamins de Johnny Hallyday.
Combien font 18 plus 18?
38.
28.
18 plus
28.
18 Attends, je la comprends pas.
Bah, moi, j'avais pas
compris. Ah oui, 18 ans.
18.
Ça va être cool de me.
Ça fait 28.
Ça va être cool de me couper, quoi.
18 plus 18. 18 plus 18.
T'as pas connu beaucoup de flops, Arnaud, à ce micro. Mais alors celui-là, il est pas mal.
Ouais, mais il est pas de moi, tu vois.
Mais je l'aime bien celle-là, elle me plaît beaucoup.
Ouais. Je m'en la... Tu veux dire qu'elle a la minute, ça va être.
Ce qui est con, c'est que ça marche pas avec les moules.
Oh putain. C'est pas faux.
Tu sais que Johnny Hallyday, il a donné un.
Il est mort.
Ouais. Alors, ça, lui... 5000 euros à un de ses enfants et 2000 euros à l'autre.
Oh, bah, dis.
C'est dégueulasse, hein. Mais il a donné 5000 au plus grand et optique 2000. Voilà.
Alors, Nico, il a des vieux réflexes de manager, tu sais. Oui, oui, je vois ce que tu veux dire. Oui.
Tu peux préciser.
Je trouve très intéressant ce que tu dis. Cependant.
Cependant, tu peux reformuler.
Moi-même, je comprenais pas ce que je disais.
Bon, bah vous êtes prêts ?
Ah bah...
C'est bon. On a déjà 20 minutes d'émission. C'est déjà pas mal.
Allez, d'enfer. 2h50 d'enregistrement.
Oh la vache. Mais il y avait 20 minutes aussi qui avait dû tourner un peu avant. Ouais. Donc finalement, ça va, hein, je m'attendais à pire.
Bah ouais, d'accord.
On n'a pas fini en même temps.
Ah ouais, d'accord.
Wow. Puis là, le problème, c'est que d'habitude, je peux un peu couper dans ça,
bah,
rapide, en même temps le jingle, le quiz. Mais là, je peux pas couper comme il y a de la musique tout le temps en fond. Je peux pas couper pour gagner un peu de temps. Tu te fous de ma gueule, connard.
On s'est jamais de Noël.
Dis-lui quelque chose. Ne le laisse pas m'insulter comme ça. Dis-lui quelque chose.
Je t'interdis de lui dire ça.
Non.
Parce que
et je vais
jamais expliquer en chanson.
Jamais plus tu me parles comme ça. Où c'est mon point
dans ton merde.